Je suis Laura Jane Gauthier et vous écoutez Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. Supplément d'âme est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. Alors n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et à en parler autour de vous afin de faire rayonner les projets et associations des personnes que j'interviewe et qui œuvrent pour un monde plus respectueux du vivant. Je vous souhaite une très belle écoute.
Qu'il est parfois long le chemin pour être pleinement soi. Chez Eve Simonet, pourtant, cela semble si simple de bifurquer, de tout remettre en question, de tout plaquer, de partir, de dire non pour mieux se dire oui. Eve, c'est une femme dont le vécu peu commun et loin d'être facile a forgé cette force de vie incroyable qui l'anime et cette détermination sans commune mesure. Eve a cette manière bien à elle de communiquer son vécu et de se raconter de manière si évidente. C'est ce qu'elle a fait avec son postpartum suite à la naissance de son fils il y a 2 ans et demi, et cela a aidé des milliers de femmes. Eve, c'est une bosseuse dont l'ambition affichée est d'éveiller les consciences, de bousculer l'ordre établi et d'encourager, de promouvoir la puissance des femmes. Rien que ça. Ça peut paraître ambitieux, sauf que comme vous allez le voir, quand on écoute Eve nous raconter son histoire, assez vite, on se dit que s'il y a bien quelqu'un qui peut relever ce défi hors norme, eh bien c'est elle. Je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti. Bonjour Eve.
Salut Laura Jane, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Bah ça va bien, je suis trop contente d'être là.
Moi aussi, trop bien.
Déjà bienvenue dans Supplément d'âme. Ma première question, elle est quasiment tout le temps la même. Est-ce que tu veux bien me raconter ta vie et plus particulièrement, si tu veux bien, ton enfance?
Avec grand plaisir. Mon enfance, je pense déjà que j'ai plusieurs versions de mon enfance et qu'elle change aussi en fonction de mon propre développement et de ce que je comprends au fur et à mesure que je grandis. Je pense que j'aurais pas du tout la même réponse à cette question si tu me l'avais posée il y a 3 ans, par exemple, avant la naissance de Ferdinand, ou aujourd'hui. Mais maintenant, en relisant mon enfance, ce que je peux en dire, enfin en tout cas ce que je trouve, c'est que j'ai pas eu longtemps d'enfance, en fait. C'est une période pour moi qui a très peu existé, en fait, je dirais.
Au sens d'insouciance, du coup, j'imagine.
Ouais, au sens d'insouciance, parce qu'il y a des événements dans ma vie qui sont arrivés très tôt, qui ont été ultra traumatiques et qui te font sortir, en fait, de l'enfance. Et donc, oui, des événements qui m'ont fait sortir de l'enfance, en fait, très, très rapidement. Et puis surtout aussi je crois que j'avais vraiment j'avais très hâte en fait d'être grande et ça m'ennuyait un peu aussi l'enfance, tu vois, je trouvais vraiment qu'on était enfin que je me trouvais très je me trouvais vraiment pas libre en fait et j'avais qu'une hâte, c'était de sortir de l'enfance. Donc ce deux mélanges de, à la fois une enfance voilà avec des soucis familiaux très précoces, des gros traumas. Et puis, en plus, ma personnalité qui faisait que j'avais qu'une hâte, c'était de grandir. Pour moi, l'enfance, c'est pas... J'ai même pas de souvenirs d'enfance, en fait. Enfin, genre, j'ai très peu de souvenirs d'enfance, quoi. Genre, ma petite sœur, Lilou, elle est capable de te dire genre, des souvenirs quand elle avait 2 ans. Moi, franchement, pas du tout, quoi.
T'as fait un espèce de blackout avec les événements traumatiques dont tu parlais.
Ouais. J'ai fait des gros blackouts de protection. Et il y a pas mal de choses qui sont revenues juste après mon accouchement, d'ailleurs. Et ça, c'est un concept que je connaissais pas du tout, qui s'appelle la transparence psychique. Et où, en fait, t'es dans un état de conscience modifié, en fait, juste après ton accouchement. Et juste avant, un petit peu aussi. C'est sur 2-3 mois. Et en fait, ça te fait revenir un peu tous tes traumas. Et du coup, bah, tu dois dealer avec ça alors qu'en plus, tu viens d'accoucher et qu'il y a plein d'autres trucs. Mais finalement, ce qui est aussi bien, puisque ça permet de les traiter, quoi. Après, enfance, tu vois, j'ai grandi avec ma mère qui m'a élevée. Elle m'a eu super jeune, elle a accouché, elle avait 21 ans.
Toute seule, du coup, sans ton père?
Ouais, enfin, mon père est en vie. Mais ils n'ont jamais vraiment été ensemble. Et ensuite, ça a été extrêmement conflictuel entre les deux, avec moi, où il ne m'a pas vraiment reconnue, quoi, tu vois. Donc, c'était c'était difficile aussi pour elle. Mais en tout cas, elle m'a donné toute la sécurité affective qu'elle pouvait. Mais aussi, à un moment, en tant que mère, y a des limites, en fait, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même eu des moments heureux, tu vois, évidemment, puisque c'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais en tout cas, moi, ma perception de mon enfance, j'ai été bien traitée et tout par ma mère qui m'a mis un cadre, le meilleur cadre qu'elle pouvait. Mais en tout cas, si moi, je te réponds vraiment dans mon intime, pour moi, l'enfance, elle a très peu existé, quoi. Mais sinon, que dire, c'était une enfance en Normandie, du coup. Une enfance en Normandie. Moi, je suis née à côté de Honfleur. Et j'ai vécu là-bas avec ma mère jusqu'à mes, je crois, 5 ou 6 ans. Où ensuite, on est plutôt allé vers Caen, dans la campagne. Parce que ma mère, elle a le don pour toujours aller se mettre dans le fin fond de la campagne profonde. Donc c'était quand même une enfance aussi... Malgré tout, au grand air, avec des vaches partout. Et je pense que ça aussi, ça construit finalement la personne que j'étais. Mais sur ce truc d'enfance et d'insouciance, il y a ces événements traumatiques qui ont eu lieu quand j'étais toute petite, tu vois, 3-4 ans, et qui sont des violences sexuelles de la part de mon grand-père paternel. Et qui m'ont fait sortir de l'enfance, en fait. Parce que ce genre de truc tellement fort dans la vie d'une enfant, parce que même si t'es toute jeune, tu comprends que c'est pas normal ce qui se passe. Et tu comprends que tout de suite, en fait, ta vie, elle est... Il n'y a plus d'insouciance, en fait, quelque part, quoi. Et sur cette histoire en particulier, les violences, elles ont duré plusieurs années. Donc c'est pas un one-shot, c'était répétitif. Et ensuite, surtout, il y a eu un procès, il y a eu plein de choses. Donc du coup, ça a vraiment ponctué en fait mon enfance. Et quand moi, je suis devenue un peu plus grande, j'ai voulu oublier ça. Enfin, j'ai voulu. C'était pas conscient. Mais pour me protéger finalement, comme beaucoup de victimes de violences sexuelles, on fait ce genre d'amnésie traumatique où on se souvient pas pour pouvoir exister en dehors de ça finalement. Comme il n'y a pas, et comme en France aujourd'hui, on ne prend pas cette question du tout au sérieux, la parole des enfants, elle est complètement dévalorisée, bah, tu dois trouver un moyen de vivre malgré tout. Et je pense que c'est aussi ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est d'avoir appris si jeune, en fait, que bah, même en fait, dans des événements les plus dark de la vie humaine, et bah, y a quand même en fait, une possibilité de lumière quelque part et de toi t'en sortir, en fait. Ça, c'est des choses que j'ai compris il y a des années après. Mais ouais, c'est pour ça que j'en parle pas mal en ce moment. Enfin, pas mal. J'essaye de prendre la parole sur ce sujet et je le mets beaucoup en avant, tu vois, les violences sexuelles que j'ai subies parce que je les ai donc découvertes récemment. Et surtout, en fait, ce poids-là de ce traumatisme qu'on est énormément apporté parce qu'en France, c'est un enfant sur 5 qui est victime de ça. Et surtout, c'est les enfants qui parlent. Donc combien d'autres? Et du coup, j'en ferai un peu un combat dans les prochaines années, tu vois, pour essayer d'en parler, quoi. Parce que c'est pas rien, mais c'est pas pour autant qu'on est traumatisé à vie.
Ça a l'air d'être important pour toi de partager aussi ces paroles qui peuvent donner de l'espoir à des personnes qui seraient en pleine réminiscence de trauma, de la vie peut continuer.
Ouais, je pense que vraiment la vie peut continuer et la vie peut être... En fait, de tout ça, je pense qu'on peut en faire une grande force, mais encore faut-il avoir les outils pour pouvoir le faire. Et moi, je pense qu'il y a eu un grand changement dans ma vie quand j'avais 21 ans, où j'ai commencé à lire pas mal de livres, de psychologie, même de développement personnel, tu vois, mais de... Il y a développement personnel et développement personnel. Je sais qu'en France, parfois, quand on dit ça, ça fait un peu genre gourou bizarre, mais il y a vraiment des gens super brillants, en fait, qui ont écrit des super livres de développement personnel. Et j'en ai lu quelques-uns qui m'ont vraiment genre changé, en fait, ma perspective de... Toute ma perspective, en fait. Parce qu'avant, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à mes 21 ans, je me positionnais en victime, que j'étais, hein, légitimement, tu vois. Parce que ça, c'est un trauma parmi tant d'autres. Et c'est normal quelque part finalement, parce que comme il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas encore une fois écoute de la parole de l'enfant, bah, tu te construis un petit peu comme tu peux. Et j'étais vraiment tout le temps victime en fait de mon propre sort, sauf que ça se concrétisait dans ma vie de tous les jours, dans mon futur, et que c'était un espèce de cercle vicieux en fait où j'arrivais pas à en sortir. et surtout où je savais pas que je pouvais en sortir. Et en lisant pas mal de ces livres-là, je me suis rendu compte que je pouvais en fait arrêter de porter ce poids-là aussi sur mes épaules et de définir ma vie autrement en fait que par tous ces traumas qui me sont arrivés et en fait dont je ne suis pas responsable. Et ça, ça a été un beau chemin qui se poursuit toujours aujourd'hui, hein. C'est jamais fini, je pense. Mais donc oui, je pense vraiment que si en fait on laisse aux victimes et même juste à toutes les personnes opprimées, hein, parce que c'est pas, enfin, quand t'es opprimé, t'es victime. Donc voilà, c'est très large finalement comme scope, quoi. Mais je pense que quand on te donne le moyen de voir ta vie sous un autre angle et de te dire tu peux reprendre en fait le pouvoir sur ta vie et tu as l'opportunité de faire changer des choses aussi. Il y a des choses que tu pourras pas changer, mais il y en a sur toi-même que tu peux changer. Et surtout, tu peux t'entourer, et surtout, tu peux en parler, et surtout, tu peux guérir, en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, moi, cette question de l'intime, comme toi, parce que je trouve que ça commence là, en fait. Ça commence là-dedans, et c'est une guérison, quoi. C'est une thérapie, quoi. Donc... Oula, on a divagué là depuis l'enfance, mais...
Est-ce que tu parlais de guérir et de guérison, est-ce que, c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que tu considères que t'es guéri aujourd'hui ? Est-ce qu'un jour on est guéri de ça ?
Tu parles des violences sexuelles ou tu parles de manière générale ?
Entre autres, mais tu parlais de différents traumas, ouais. Alors les violences sexuelles d'un côté et puis peut-être d'autres traumas. Comment, quand on a vraiment vécu des traumas énormes et surtout à un jeune âge, où je crois que les psys expliquent qu'entre 0 et 6 ans, ça impacte beaucoup plus qu'après. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout impacté après, ouais, évidemment. Mais alors je n'ai pas toute l'explication scientifique, j'imagine que c'est le cerveau qui n'est pas fini d'être construit, la conscience de tout, etc. Mais est-ce que, comment toi, par exemple, tu parlais de développement personnel, quels sont les outils divers que tu as trouvé qui t'ont aidé à avancer? Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères guérie, comme tu disais?
Je pense que c'est un chemin, la guérison, et qu'on n'est jamais 100% guéri. Par contre, je pense qu'on peut toujours tendre à l'être et travailler pour l'être et surtout voir de vraies des améliorations. Et je pense que c'est dans ces améliorations-là qu'on se dit qu'on a fait du chemin et qu'on se sent mieux, et surtout dans comment tu te sens, en fait, toi, avec toi-même, toi, avec le monde, et comment tu te sens dans ton cœur, en fait, parce que le problème de ces traumatismes, en général, et de ces oppressions, même si au sens large, c'est que finalement, ça nous affecte aussi, et on comprend pas tellement pourquoi, en fait. Et moi, en fait, là où je remarque un grand changement, c'est que j'étais beaucoup, beaucoup dans l'autodestruction. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça, en fait. Et pourquoi je me faisais de l'auto-sabotage en permanence. Et j'ai toujours, je pense, été genre vachement attirée par la lumière de la vie, tu vois, à aimer la vie. Et donc, du coup, je suis jamais allée jusqu'à la dépression ou ce genre de choses. Parce que je pense que... Enfin, pas forcément pour la dépression, mais je sais que j'ai un côté super solaire en moi. Mais je sais que j'ai son versant super dark, en fait. Et la darkness, elle avait tendance à m'engloutir, en fait. Et j'arrivais pas à voir comment m'en sortir, en fait. Et en fait, j'arrivais pas à voir pourquoi est-ce que j'étais quand même dans un espèce de marasme de violence en moi-même et de tristesse. Et pourquoi j'arrivais pas, en fait, à avancer. Parce que je sentais qu'il y avait moyen d'avancer, mais je comprenais pas. Et donc c'est les outils dont moi je me suis servie très tôt. Ça a été, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les outils, par exemple, je les ai plus aujourd'hui. Je les ai plus dans ma vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être mon engagement. Ça va être les films que je fais. Ça va être les liens que je tisse avec d'autres femmes. Mais c'est en grande, grande majorité ce qui m'anime, c'est en grande majorité mon engagement féministe, en fait, maintenant, et surtout, même sur toutes ces violences-là, en fait, qu'on subit en permanence. Moi, je sais que de faire ça, ça me guérit à donf. Et c'est ce concept dont j'ai appris l'existence avec ton livre, donc c'est la paire aidance aussi, quoi, tu vois. C'est de pouvoir se dire « je suis utile aux autres », et ça, pour moi, ça a été un vrai game changer. Mais avant, je pense qu'il y avait quand même des choses... dont je me suis servie un peu sans le, enfin, dont je me suis raccrochée, quoi. Et pour moi, ça a été dans la découverte ou dans l'amour de la vie. C'est passé beaucoup par les voyages et c'est passé beaucoup par une émancipation, en fait, comme ça. De me sentir libre, en fait, au moins géographiquement. Et donc, tu vois, ça s'est traduit super tôt parce que je suis partie de chez ma mère, j'avais 13 ans et demi. Donc, c'est très tôt.
Ouais. T'es allée où à 13 ans et demi ?
Je suis pas allée très loin parce qu'elle, elle était à une trentaine de kilomètres de Caen et j'ai pris mon premier appart à Caen. Et j'étais avec mon premier petit copain de l'époque qui avait quelques années de plus que moi déjà à l'époque. Et ça a duré 6 mois comme ça. Et ensuite, j'ai un peu vagué à droite, à gauche, j'ai arrêté l'école. Et j'étais un peu de squat en squat, à Paris, à la boule de temps en temps, j'y allais. C'est très flou cette période pour moi. Mais en tout cas, c'est le moment où je me suis séparée de ma mère comme ça. Et parce qu'il y avait un contexte familial à la maison qui était super difficile. Parce que pour le coup, moi, ma mère, elle a fait une grosse dépression quand le père de mes sœurs l'a quittée. Moi, j'avais 12 ans à l'époque. Et elle a sombré, ma mère, vraiment. Elle a pas vu venir cette séparation. Et elle avait construit sa vie autour du père de mes sœurs. Et elle a plongé dans l'alcool, quoi. Vraiment. Et en fait, à ce moment-là, c'était tellement difficile de voir ma mère comme ça, pour moi, dans cet état-là, que je me suis dit, il faut que je me sauve. Parce que c'est une question de survie. Et ça, je pense que c'est le premier truc, en fait, que je dirais. Et c'est pas un outil parce que c'est propre à chacun. Mais et c'est aussi avec mon histoire. J'ai un énorme instinct de survie, en fait. Et je sais prendre les décisions difficiles pour moi, quand il faut les prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une chance à la fois. Enfin, je m'en rends bien compte que c'est pas difficile pour moi de faire ces choix-là, alors que je pense que pour d'autres personnes, ce serait immense, voire infaisable. Mais ça fait partie aussi de mon histoire avec justement toutes ces violences dans l'enfance, ce genre de truc où très vite j'ai été confrontée à des dangers de mort en fait dans la tête d'une enfant de 6 ans, et où et encore une fois, c'est choisir la vie finalement. Et donc c'est se sauver, se protéger. Et donc je suis partie de chez ma mère à ce moment-là. Et donc pendant un an, gros bordel. Et ensuite, quand j'avais 15 ans, c'est mon oncle qui habite à Paris à l'époque avec ma cousine qui m'a récupéré un peu la petite cuillère en disant « Mais meuf, t'as 15 ans, tu vas plus à l'école », alors que j'aimais beaucoup l'école et que j'avais des bonnes notes. Tu vois, j'étais une bonne élève quand même. Et t'es là, tu fais quoi, t'habites où, tu manges comment, t'as pas d'argent, enfin tu vois. Et surtout, c'était un moment où je commençais à prendre beaucoup beaucoup de drogue. Et en fait, il m'a dit ok, maintenant tu viens habiter à la maison. Et il m'a hébergé, il m'a rescolarisé à Paris. Et il m'a amené à l'école le matin, le soir, à venir me chercher pour me fliquer, mais quelque part parce que j'en avais tellement besoin. Parce que quand tu passes un an en fait à cet âge-là à être livré à toi-même et en faisant la teuf et en prenant beaucoup de drogue et en étant confronté à des gens beaucoup plus vieux que toi, eh bien, t'es one free, quoi, tu vois. Et donc, te remettre dans un système de « Ok, je vais à l'école, ok, il y a des horaires pour manger, ok, je peux pas fumer des pets ou des trucs comme ça, n'importe quand, n'importe comment », eh bien, lui, en tout cas, il m'a ça a été un ange dans ma vie et il m'a remis sur le droit chemin, vraiment. Et du coup, j'ai fait mon bac et j'ai eu mon bac mention bien quand même. Donc, j'étais contente, j'étais fière de moi. Mais donc, ouais, ça a été cette liberté que j'ai eue là déjà. Et ensuite, après mon bac, j'ai pas poursuivi mes études et je suis partie vivre en Australie à 18 ans. Donc ça a toujours été chez moi quelque chose de très, très fort, d'indépendance, je fais ma vie toute seule, je trace, quoi. Et ça m'a énormément construite, je pense, mon moi, en fait, et mon sens du moi. Et ce que je veux faire de ma vie, c'est à moi de le définir. Et je suis capable de subvenir à mes besoins, même si, c'est galère, quoi. Mais en tout cas, je ne meurs pas. Et donc, en tout cas, ça a été comme ça toute la première partie de ma vie d'ado et d'adulte. Mais les clés, je les ai aujourd'hui.
Comment tu te sentais, c'est une question un peu bizarre, mais Est-ce que t'étais en dépression à 13 ans et demi ou t'étais en mode survie, donc pas du tout? Enfin, avec le recul aujourd'hui, t'arrives à définir l'état dans lequel t'étais et si t'avais du recul sur la situation?
J'étais, je m'en souviens très bien pour le coup, j'étais pas en dépression du tout. J'étais super excitée. J'avais peur quand même, quelque part aussi. C'est ça, je me souviens quand même d'avoir peur parce que zéro sécurité, tu vois. Après, je veux dire, ma mère, si jamais j'avais eu un problème vital, enfin, tu vois, j'aurais pu retourner chez elle. Enfin, c'était pas. Donc, j'avais peur, mais j'avais quand même ce truc de me dire si jamais, je sais pas moi, il se passe un truc de ouf, on est fâchés, on se parle plus, mais. Elle m'accueille parce que ma mère, c'est une bonne personne, tu vois. Mais c'était aussi une grande excitation pour moi de commencer aussi à vivre cette vie d'indépendance. Et c'était aussi la liberté dont j'ai rêvé toute mon enfance. Donc j'étais... c'était pas du tout la dépression. J'étais... Par contre, je pensais beaucoup à ma mère et je pensais beaucoup à mes sœurs que j'avais laissées aussi avec ma mère, mes deux petites sœurs. Parce que ça, je portais une énorme culpabilité de me dire, moi, je me suis cassée parce que c'était trop difficile. Mais du coup, je laisse les deux. Et ça a été énorme. Et ça fait partie de ces choix super difficiles que j'ai fait pour me sauver, tu vois. Et aujourd'hui, je le regrette pas. Parce que, c'était ma vie, c'était comme ça. Mais ça a été, tu vois, niveau choix difficile, ça, pour le coup, ça a été l'enfer. J'ai toujours choisi, je me suis choisie, en fait, tu vois. Mais sans vouloir, je veux pas paraître égoïste, tu vois, parce que c'était pas l'idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui s'oublient et qui se choisissent jamais. Et que c'est un peu triste, tu vois. Parce que quand tu te choisis, après, ça te permet aussi de bien te connaître et après de pouvoir donner aux autres une fois que toi t'es stabilisé. Et ça a toujours été super clair dans ma tête, même quand j'avais 13 ans et demi. De ok, je laisse les filles parce que je dois me sauver, mais par contre, je vais tout défoncer et quand je serai en place, elles vont en profiter et tout le monde va en profiter. Et donc ça a toujours été accompagné d'une énorme volonté de rage de vivre et de réussir. Réussir, mais jamais n'importe comment aussi, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me porte et je trouve que aujourd'hui on le voit dans ce que je fais, tu vois, que genre je pense que je me défonce quand même pas mal et en même temps pour moi c'est naturel parce que c'est la personne que je suis, mais c'est surtout la personne que j'ai voulu être, tu vois, et donc du coup c'est aussi cool de me rendre compte que là j'approche la trentaine et que j'ai réussi, tu vois, mais pas en termes financiers ni rien, mais j'ai réussi à faire ces choix difficiles qui m'ont mené là où je veux être aujourd'hui et qui aujourd'hui me permettent d'avoir une super relation avec mes sœurs, avec ma mère, de pouvoir faire kiffer mes sœurs aussi, tu vois, de pouvoir même les aider financièrement aujourd'hui, de pouvoir leur apporter aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de ce que, enfin, d'être un pilier aussi pour elles, j'espère, tu vois. Et c'est vraiment ce que je voulais. Et pour moi, c'est là où je vois le succès, tu vois. C'est de pouvoir être suffisamment solide aujourd'hui, mentalement, et aussi dans ma vie, pour pouvoir donner en retour, en fait, tu vois.
Et t'as l'air d'être, du coup, comme tu disais, le pilier de pas mal de personnes, de plusieurs personnes. Est-ce que toi, t'as des piliers ?
Est-ce que moi, j'ai des piliers ? Bonne question. Autour de moi, écoute, dans ma vie affective, on va dire, j'ai toujours fait des mauvais choix. Je me suis toujours entourée de personnes toxiques. Parce que j'étais dans ce système, moi aussi, de dévalorisation de moi-même. Et qu'en fait, après, quand tu commences aussi à t'intéresser à plein d'autres choses et que tu commences à creuser sur toi, ta personnalité, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu fais ces choix-là, tu te rends compte que tu n'y es pas pour grand-chose, mais que tu as été extrêmement conditionné par tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Et que du coup, c'est pas trop de ta faute, quoi, mais que quand tu t'en rends compte, si tu as la force, il faut faire changer les choses. Et malgré, je pense, une appétence pour tous ces sujets de développement personnel dont j'ai lu très tôt, les livres justement, j'ai pas réussi à mettre ça en place dans ma vie avant récemment, en fait. Parce que je pense qu'il y avait quand même encore une certaine part de je m'accepte pas aussi telle que je suis, quoi. Et du coup, je veux pas forcément le bien pour moi. Et j'étais beaucoup dans des relations toxiques avec des amis, de codépendance, avec des mecs, laisse tomber. Moi, tous mes mecs, c'est des fous furieux, hein, tu vois. Le seul à peu près normal, c'est le père de Ferdi, qu'on s'entend, tu vois. Donc, on voit l'évolution aussi au fil des années. Mais toujours avec des tarés qui ne me respectaient pas, qui me mettaient beaucoup dans la drogue, parce que moi, ça a été un gros sujet dans ma vie. La drogue que j'ai pris pendant très, très longtemps, à grande fréquence et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va un peu de pair, si tu veux, avec cette intensité de vie que j'aime et que je recherche aussi, tu vois. Et quand je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup été dans l'autodestruction, c'est qu'en fait, mon énergie de vie de ouf, bah, je la mettais dans des moments d'intensité que je trouvais par la drogue. Et là, encore une fois, où je vois où j'ai évolué, c'est qu'aujourd'hui, je vois bien que je tends vers la création et plus vers l'auto-sabotage. Et alors, ça prend du temps à être réglé, hein. Franchement, je ne suis pas du tout Bouddha, loin de là. Mais en tout cas, je sais où aller travailler maintenant. Et c'est quand même ça le plus important, je trouve. Parce que quand tu ne sais pas où appuyer, vers qui te tourner, et surtout, quelles sont tes propres fragilités, bah, tu ne peux pas travailler dessus, en fait. Et déjà, juste de comprendre tout ça, ça prend une petite dizaine d'années. Hein. C'est long. C'est pas un travail que tu fais en 3 semaines, quoi. C'est des années, en fait, de réflexion, de mise en... de remise en question de toi. Mais en tout cas, c'est un travail qui paye quand même, quoi. Vraiment.
C'est marrant parce que en t'écoutant, il y a un truc qui ressort de ouf, c'est que t'aurais toutes les raisons de te sentir une victime de la vie. Et a l'air d'en faire une force incroyable. Comment non mais tu vois, est-ce qu'à un moment donné tu t'es senti victime et t'as réussi à sortir de ça et sans, tu vois, s'il y a des personnes qui se sentent victimes, je veux pas du tout justement montrer du doigt parce que je pense qu'il y a plein d'étapes comme tu disais dans la guérison donc
Oui, vraiment, jusqu'à mes 21 ans je fonctionnais vraiment en victime, tu vois, vraiment, enfin c'était en moi et c'était le rôle, mais quand je dis rôle, c'est malgré moi, en fait, que je portais, mais parce que j'avais besoin de réparation, en fait, tu vois, et j'avais besoin d'estime de moi-même, et c'est ce qui me manquait terriblement, tu vois, vraiment. Et alors, sur spécifiquement ce sujet, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Je te jure, je l'ai lu. Et en fait, j'ai une petite anecdote que je raconte de temps en temps quand je parle de ce livre parce que ça explique déjà super bien. C'est que j'avais 21 ans et j'habitais à Berlin à l'époque. Et je revenais voir ma mère un week-end à Caen et ma mère avait un cancer. Et j'étais au relais de la gare de Paris et je voulais chercher un livre, voilà. Ça, c'est une spécificité aussi de moi, c'est que je suis une dévoreuse de livres, donc ça aide beaucoup. Et je me souviens, j'avais pas de thune à l'époque, enfin vraiment, c'était la dèche totale. Et je rentre devant l'étal et je vois 2 livres. Et je vois Le pouvoir du moment présent qui m'attire. Et juste à côté, je vois des clés pour se remettre du cancer. Et au début, je me suis dit, je vais prendre ça pour maman. Et en même temps, je lis la 4e de couverture du pouvoir du moment présent et je me dis, putain, mais quand même, ça m'intéresse beaucoup. Et j'avais pas assez d'argent pour acheter les 2. Et là, j'ai eu un espèce de tilt de ouf de mais prends le pouvoir du moment présent, guéris-toi, parce que si toi, t'es pas guéri, tu pourras pas aider ta mère, en fait. Et franchement, ça m'a apparu super clairement à ce moment-là, tu dois, toi, te guérir pour pouvoir aider les autres, en fait. Tu peux pas faire dans le mauvais sens. Et je saurais pas te dire vraiment pourquoi ça s'est arrivé à ce moment-là, mais n'empêche que donc j'ai lu ce livre et qu'il a vraiment changé ma vie, quoi. Il y a des lectures qui changent ta vie et lui, il en fait vraiment partie, quoi, parce qu'il explique très très bien ce système de victimisation. Et que je me souviens lire ce livre, de le poser comme ça et de me dire pourquoi on m'avait jamais dit ça. Pourquoi est-ce que jamais j'avais pensé qu'en fait, quelque part, c'est un choix, tu vois. En fait, ça peut être aussi simple et c'est vraiment très propre à chacun. Je veux pas faire genre c'est facile et tout. Hein. Mais là, je parle vraiment juste de mon expérience à moi. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Dès que j'ai compris que j'avais le choix de sortir de ça, et ben j'en suis sortie en fait. Et après, ça a été un travail de super long terme pour maintenir ça et pour faire émerger ça et le pratiquer tous les jours, tu vois. Mais ça m'a raccroché à quelque chose. Ça, ça a été une de mes portes de sortie, de me dire « Ah putain, visiblement, on peut penser différemment, en fait. » Et juste sur cette question de moment présent, tu vois, moi, je pratique pas du tout la méditation et tout. Je suis vraiment... Je sais, ça serait très bien, mais je suis très loin de tout ça et tout. Donc, si tu veux, j'en ai pas fait non plus une philosophie de vie. Mais par contre, j'arrive à avoir des concepts qui m'aident énormément, en fait. Et ça, ça en était un. Et même juste le moment présent, je me souviens de me dire... Quand il explique qu'on est toujours dans la fuite, toujours, on n'est jamais dans le vrai moment présent de juste là. Et il y a une phrase dans le livre qui dit juste là, tout de suite, maintenant, quel est le problème en fait? Tu vois? Et ça, c'est vraiment des réflexions qui n'étaient jamais arrivées à mes oreilles, jamais, jamais. Et moi, j'ai un grand. Mon mode de fonctionnement avant, c'était la fuite justement. Et en fait, juste de. Pouvoir revenir à ce genre de truc super basique, hein, mais qu'on nous apprend pas, et ben ça m'a aiguillé en fait vers là où je voulais aller. Et ensuite, ça a été des années de lecture, des centaines de livres dévorés, et je me suis tellement nourrie de ça. Donc, pour un peu répondre à ta question tout à l'heure, franchement, je dirais que j'ai pas de pilier si ce n'est ma mère, mes sœurs, qui sont des personnes phares dans ma vie, et encore ma mère, c'est super conflictuel. C'est une très belle histoire aussi. Maintenant, je le considère comme une belle histoire, mais pendant longtemps, ça a été très, très difficile. Mais moi, mes piliers, ça a été les penseurs, les théoriciens, tu vois. Tous ces gens-là, en fait, qui, moi, ont changé ma vie. Vraiment. En profondeur, en fait.
Waouh. Je sais plus quoi dire. Donc, attends, à 21 ans, t'es où? T'es à Berlin. Mmh. Donc après la Normandie, donc tu me disais que t'étais en différents squats à la Baule et ailleurs, etc. Géographiquement, ça a été quoi ton parcours?
Géographiquement, donc ça a été Caen. Et ensuite, ça a été donc l'année de teuf, là, peu n'importe où, n'importe comment. Ensuite, ça a été Paris pendant 3 ans, chez mon oncle. Et ensuite, ça a été Australie pendant 1 an. Où là, je suis partie... De base, je devais partir toute seule et j'ai rencontré un mec genre 4 jours avant. Je lui ai dit, viens avec moi. Et du coup, on est parti ensemble là-bas. Ça s'est très mal passé, d'ailleurs. Et l'Australie, en fait, ça a été aussi une fuite parce que je m'étais beaucoup disputée avec mon oncle parce que j'étais quand même une gamine super difficile à gérer, moi, tu vois. Vraiment. Et que mon oncle avait des problèmes personnels aussi dans sa vie et que je me suis cassée, en gros, encore une fois. Enfin, tu vois, un peu truc survie. Et surtout de dire, quand je me sens plus bien à un endroit, je pars, quoi, tu vois. Et ça, pareil, ça a été... C'est souvent mal perçu, tu vois, dans ma famille. Ils ont mis du temps à comprendre pourquoi je suis partie, en fait, comme ça. Juste parce que je me sentais plus bien, quoi, tu vois. Et je pense que c'est une raison qui est pas facile à entendre, parfois chez les gens, mais pourtant... qu'on devrait pouvoir entendre, en fait, tu vois, de dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, finalement. Et en fait, donc, en passant mon bac, sur mon bac de première, j'ai eu une très bonne moyenne, j'ai eu plus de 18 au bac, et du coup, j'étais admissible à Sciences Po, tu vois. Et ça aussi, pour moi, c'est un moment charnière de ma life, en fait, parce que quand j'étais chez mon oncle, à un moment de ma vie où je me recadrais et tout, et surtout en fait où ma famille elle me prenait un peu pour une tarée, tu vois, à juste titre. Et mon père, qui a toujours été super absent dans ma vie et qui m'a toujours quand même dévalorisé au profit de mon frère, y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout, et moi j'avais envie d'avoir l'amour de mon père. Et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup dans les notes, parce que je voyais que quand j'avais des bonnes notes, on me félicitait et du coup on m'aimait quelque part. Et donc, pour moi, c'est devenu super important d'avoir des très bonnes notes. Et donc, cette admission-là à Sciences Po, et surtout mon bac et tout, et ben, ça a été aussi le choix de ne pas y aller et de me casser en Australie. Ça a été aussi, tu vois, encore un choix super difficile à faire, de dire, en fait, fuck à toute ma famille, genre, je m'en bats les couilles, en fait, finalement, de votre amour. et c'est difficile pour une enfant de dire ça. Franchement, c'est et même aujourd'hui, hein, 'fin, tu vois, c'est super dur. Mais de dire, bah non, j'irai pas faire Sciences Po. Mais par contre, je vais aller en Australie et je vais kiffer ma vie pendant un an.
Pourquoi c'était ce choix de pas aller à Sciences Po, c'était de te choisir toi et tes propres choix versus faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et le regard et l'amour de l'autre ?
Ça a été deux choses en fait. Ça a été ça, et ça a surtout été en fait que comme je devais partir de chez mon oncle aussi, parce que enfin que je voulais partir et que ma famille elle a pas un copec, tu vois, donc elle pouvait pas me loger, me nourrir. J'aurais dû en fait travailler en plus pour faire cette école ou faire une autre école, parce que j'envisageais aussi une hypocagne. Et en fait, je me disais, bah non, en fait, enfin, je le sens pas, quoi. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas envie, en fait, de me tuer à travailler la nuit et tout ça. Pourquoi ? Pour avoir un bon diplôme. Et en fait, très vite, je me suis dit, bah non, je préfère kiffer aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu toujours aussi ça, c'est choisir la vie, quoi, tu vois, genre choisir ce qui, moi, vraiment me plaît. Et je me suis dit, il y a quoi là sympa, qu'est-ce que je peux faire, j'ai 18 ans, je peux faire un working holiday visa, partons en Australie, quoi, tu vois, on va apprendre l'anglais. Mais ça a été, ouais, se détacher du regard des autres et assumer mes choix jusqu'au bout, en fait.
Et comment t'expliques, parce que c'est de la lutte quand même, partir à 13 ans et demi, c'est ça, de chez ta mère, ensuite à 18 ans de nouveau de chez ton oncle, être en autogestion totale à 14, même pas à 13 ans et demi du coup, et ensuite de nouveau, enfin c'est rare, quoi, c'est voire même très 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 rare. Comment t'expliques cette émancipation ? Alors j'ai bien compris qu'il y avait un truc de survie qui était sûrement de l'ordre du non-choix, qui était un peu pour sauver ta peau, mais quelle force de caractère à un âge si jeune, quoi. Comment tu... Ça, c'est inné ou comment tu l'expliques, toi ?
Je pense qu'il y a une partie un peu d'inné. Enfin, je veux dire que c'est un peu ma personnalité. Que j'ai toujours une personnalité super forte. Et surtout, je pense que j'ai toujours voulu vivre ma vie, en fait. Genre, et pas la vivre... Non, pas à moitié, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment inhérent à moi. Et après, je pense que c'est vraiment cette histoire de non-choix, quoi. Et c'est aussi, une fois que t'as mis un peu le pied là-dedans, tu vois, tu me demandais comment j'étais sur cette année de mes 13 ans et demi, est-ce que il y avait de la peur, mais comme je te disais, il y avait tellement d'excitation. Et je pense que je suis devenue un peu une accro à cette dopamine aussi. Et qui s'est traduit du coup avec la drogue, avec plein de choses, j'ai besoin d'une intensité dans ma vie. Et pour avoir cette intensité, je peux pas faire les choses normalement, en fait. Parce que c'est trop bas. Et plus tu montes dans l'intensité des expériences, et plus il te faut. C'est vraiment un truc quand même un peu d'addiction qu'aujourd'hui, tu vois, je travaille dessus. De bah justement, toujours la même chose, me reconnecter au présent et essayer d'être un peu flat, tu vois. Genre, et d'être bien là-dedans. Mais la maternité a été... m'a aidé à pratiquer ça, hein, dans la douleur, hein, justement, tu vois, parce qu'on en reparlera peut-être après, mais l'enfermement de la maternité, pour moi, ça a été un délire, après tout ça. Mais ouais, je pense qu'il y a des deux, quoi. Et donc, c'est aussi de voir à quel point je prenais du plaisir là-dedans, et de me dire, non, genre, je m'écoute, et d'être partie si jeune, et d'avoir commencé si jeune à me construire mon moi, ben, j'ai gagné des années. Quelque part, en fait.
C'est trop beau de le voir comme ça, parce qu'effectivement, on voit tellement de personnes, et je le dis pas avec du jugement, hein, je pense qu'on fait tout ce qu'on peut, mais il y a tellement de personnes qui finalement sont pas libres, parce qu'ils vivent dans les attentes de leurs parents, dans leurs attentes des grands-parents, de je ne sais qui, de la société, des ouais. normes sociales, et qui du coup, en fait, sont dans des cases enfermées, en fait, et ne s'émancipent pas, peut-être même le feront jamais. Et d'une certaine manière, toi, par la pentraide, par des non-choix, par des traumas, par bien sûr tout ça, hein, ça je ne minimise pas du tout. Mais du coup, est-ce que tu le vois aussi comme une libération de ouf à un âge très très jeune ?
Ouais. Ouais. Et je vois aussi là, effectivement, tu vois, ces gens dont tu parles qui ne sont pas libérés de ce jugement-là. Et encore une fois, je veux vraiment pas que dans ma bouche ça sonne comme un jugement. Enfin, c'est un fait, hein. Tu vois, il y a des gens. Enfin, et c'est pas de leur faute. Encore une fois, c'est vraiment une éducation, et c'est cette éducation qui est si forte, tu vois, de l'entourage, de la famille, juste des parents, en fait. Cette, enfin,
tout ça là, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup et qu'aujourd'hui j'en ai fait quand même mon taf, tu vois. Mais oui, je vois bien la différence aussi de bah, comment moi je vis ma vie, tu vois. Mais du coup, je le vois comme une chance. Je le vois comme une chance aujourd'hui. Je l'ai toujours vu comme une chance, franchement, ça. Mais comme avant, j'étais beaucoup dans l'autodestruction, je pense que j'en ressentais pas les bénéfices, tu vois. Aujourd'hui, je les ressens, là, depuis l'arrivée de Ferdinand, en fait.
Alors justement, on va en parler de la maternité. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment t'es devenue mère ?
Oui, bien sûr. Je suis devenue mère par accident, par surprise. Et je suis tombée enceinte, je venais d'avoir 25 ans. Je venais de rencontrer Constantin.
Dans juste le contexte, donc, entre l'Australie et les 25 ans.
Ah oui, oui c'est pas mal de trucs. Hein. Entre l'Australie et les 25 ans, bah, ensuite je suis rentrée en France après l'Australie, après un an où j'ai pas du tout fait la beach life comme on pourrait croire parce que bah, j'avais pas d'argent, donc du coup je devais travailler et l'Australie ça coûte très très cher. Et du coup j'ai fait des jobs qui, pareil, m'ont grave forgé aussi, tu vois. Genre j'ai fait beaucoup de ménage dans des grosses baraques de riches. Et parce que c'est très bien payé là-bas, les femmes de ménage. Beaucoup plus qu'au pair et tout, que j'ai fait aussi. Hein. Et je faisais que travailler. Enfin, tu vois, je pense que sur mes un an en Australie, j'ai dû faire 4 jours de van. Donc, c'est pas du tout ce qu'on imagine, en fait. Mais par contre, ces tafs-là, alimentaires, sens de la réalité matérielle et sens aussi des gens, en fait. Tu vois, parce que les gens chez qui je faisais le ménage, ils étaient infects avec moi. Genre infects. Et même les gens chez qui je gardais les enfants. Je me disais vraiment, tu vois, quand même, tu gardes les gosses de quelqu'un, tu vois, genre tu fais un taf de ouf. Déjà, je voyais les gens, comment ils étaient avec leurs enfants. Et je voyais comment il y avait de la maltraitance émotionnelle et comment moi, ils me voyaient comme une putain de moins que rien, tu vois. Et je pense que ça, toute cette énergie aussi que j'ai, tu vois, ça se tire de ces expériences-là, tu vois, des injustices que j'ai subies. Et je tire, moi, vraiment ma force de là. Et j'en ai subi beaucoup, tu vois, malgré tout, malgré ma position de femme privilégiée, parce que je suis quand même une meuf qui a grandi dans une famille de classe moyenne blanche. Donc, tu vois, au niveau des injustices, franchement, je suis pas du tout la pire et j'en ai vraiment conscience. Mais je pense que ces petites injustices-là, elles peuvent aussi, bah, en fait, ouvrir ton cœur aux autres personnes qui subissent des injustices. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aussi fait émerger un peu cette conscience de classe, tu vois. Et j'avais pas du tout ces mots-là hein, à l'époque. Et ça, c'est bien après aussi d'avoir compris. Mais en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que chaque expérience, en fait, m'a vraiment forgée. Et que c'était pour une bonne raison, quoi, tu vois, que j'ai vécu ça. Et maintenant, ça, j'arrive à le voir beaucoup plus facilement qu'avant. Quand j'ai une situation difficile et tout, ça n'empêche pas que, genre, je suis en PLS, tu vois, voilà, comme tout le monde. Mais que très vite, j'arrive à me dire, OK, il est où le cadeau ? Parce qu'il y a un cadeau dans chaque situation, tu vois. Et en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup de voir les choses comme ça. De me dire, s'il y a ça là, on m'oriente quelque part et d'essayer de voir le message, tu vois. Et donc, l'Australie, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai appris à parler anglais. Donc ça, c'était cool. Et surtout, j'ai vu que j'arrivais à vivre un an sans un euro de personne, juste moi, en bossant. Et que j'arrivais dans un pays où je parlais pas un mot d'anglais, j'étais une brêle. J'avais 2000 euros sur mon compte, même en cash. Et que, quand t'es face aux difficultés, c'est là où tu te bouges le cul, en fait. Et pareil, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup eu, mais grâce à ces expériences-là, en fait, tu vois, de dire quand t'es face au mur, t'es obligé, en fait, t'as pas le choix. Ensuite, après l'Australie, je suis rentrée en France. Et j'ai voulu reprendre les études et je me suis inscrite en alternance pour un BTS com. Et j'ai fait 3 mois et c'était l'enfer. Et je me suis dit, je me fais chier là-bas. Et du coup, j'ai arrêté. Et on m'a proposé un job dans une agence événementielle. Et donc, à 19 ans, j'étais chef de projet dans une grosse agence événementielle. Et j'ai commencé à gagner pas mal d'argent parce que j'étais payée à la commission sur les événements. Et que du coup, je bossais beaucoup. Et que là, j'ai commencé aussi à me dire... Ok, donc, parce qu'en Australie, je travaillais beaucoup, je gagnais pas d'argent. Et là, je travaillais beaucoup, je gagnais de l'argent, tu vois. Et de me dire, continuons aussi là-dedans. Sauf que j'ai ressombré total dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ça, parce que Paris, parce que la teuf, parce que j'ai de l'argent. Du coup, je le dépense. Et c'est là où je suis partie à Berlin. Et personne ne comprend à chaque fois quand je dis « Ouais, je suis partie à Berlin pour arrêter la drogue quand même un peu. » ça peut paraître bizarre, mais n'empêche que moi, ça m'a bien réussi. Parce que la drogue, c'était pas juste pour la drogue, c'était la drogue aussi pour la fête. Et la danse et ce lâcher prise que je trouvais pas dans ma vie sinon. Et qu'à Berlin, t'as beaucoup, en fait, tu vois. Et c'est beaucoup moins regardant, beaucoup moins jugeant qu'à Paris. Et du coup, c'était vraiment un beau moment là-bas aussi. Et à Berlin, j'ai commencé à me former au code, au design.
Donc attends, à Berlin, t'as quand même continué un peu la teuf et la drogue et tout ça?
Ouais, mais plus la coke, en fait. Okay. C'était la coke le problème. Et je prenais des extas de temps en temps. Et qui est quelque chose de vraiment différent, en fait, en termes d'effets physiques et mental. Enfin, moi, c'était vraiment la coke, mon point noir. Mais un petit extra, tu vois, un demi-extra où tu passes 6 heures à danser comme une folle, même ça, aujourd'hui, je le continue, tu vois, j'adore. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que c'est sain quand c'est une fois par an, deux fois par an, tout va bien. Moi, mon souci avec la drogue, avec la coke, c'est que c'était tout le temps. Donc, mais ouais. Et donc, Berlin, c'est là où j'ai commencé à me former au développement. Et ça qui m'a beaucoup servi après, puisque j'en ai fait mon métier.
Quand tu dis développement, c'est...
Le code.
Ouais.
Ouais. Code, okay. Et design et tout ce qui allait autour, en fait. Du coup, réseaux sociaux aussi un petit peu, marketing digital. Voilà, j'adorais ça. Et en fait, très vite, quand j'ai commencé à bien savoir un peu, bien maîtriser, je maîtrisais même pas, où j'ai commencé à avoir mon premier client, en fait, qui pourra que je fasse un site... Et ou pas pareil, en fait, face au mur, il faut que tu livres le site, ils t'ont payé 4000 balles, il faut le faire, et du coup je l'ai fait, et après j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, et j'ai pu développer la plateforme de documentaire postpartum toute seule, tu vois, aussi. Donc tout ça m'a servi, en fait, beaucoup plus, plus tard, après, pour plein de choses, quoi.
Et donc à Berlin, t'es resté combien de temps en tout ?
6 mois.
Ok, donc c'était rapide, et ensuite t'es revenu ici.
Ensuite, j'ai voyagé.
Ok.
Ensuite, j'ai voyagé, j'ai rencontré un mec, en fait, qui était DJ. Et développeur, et qui m'a bien aidé à apprendre le code, justement. Et en fait, il était en tournée tout le temps, et moi, je le suivais. Et du coup, on a pas mal voyagé, genre pendant un an, on a fait plein de pays, super longtemps et tout, donc ça, c'était la folie. Et ensuite, on s'est installé à Lisbonne.
T'es resté combien de temps à Lisbonne ?
3 ans.
Et donc ça, c'était avant d'avoir Ferdinand, bien évidemment,
ouais,
avant de revenir
juste
ici.
Avant. Je suis revenue en mars 2019, j'ai rencontré Constantin en juillet 2019, et je suis tombée enceinte... 1er janvier 2020.
Ok, et donc tu t'es dit je le garde ?
Bah ouais, on s'est dit ça en fait, on s'est dit allons-y quoi, on s'est dit allons-y, mais c'était vraiment super inattendu.
Ton ex, je peux dire ton ex ?
Ouais.
Ton ex, il était plus âgé ?
Oui.
Ouais. Ouais, donc toi t'étais toute jeune et lui il avait plus l'âge
ouais,
peut-être ?
Ouais, il a 11 ans de plus que moi.
Ok, ça a joué j'imagine peut-être ?
De quoi ?
Ça a joué dans la décision
Ça a un peu joué dans la décision, ouais, ça a joué dans la décision, je pense que... Ce qui a beaucoup... Moi, je me souviens de me dire, meuf, t'as fait un peu le tour du monde quand même. Genre, ça fait des années que je travaillais, même malgré mon jeune âge. Je me disais, bah, ouais, je suis jeune, mais en vrai, dans ma tête, j'ai 40 piges, quoi. Tu vois, donc allons-y, il n'y a pas de souci. Et surtout, j'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. La vérité, c'est ça, tu vois. Mais quand tu connais un peu mon histoire maintenant, c'est pas non plus déstabilisant pour moi, tu vois, de me lancer dans un truc où je sais pas, quoi, tu vois.
Alors, tu te figurais quoi et t'as découvert quoi avec la maternité ?
Je me figurais beaucoup de choses. Déjà, je me disais, j'étais dans un délire quand même, hein, mais que je pense que je suis vraiment pas la seule. C'est-à-dire, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que l'enfant allait... Me cadrer dans le sens où j'allais plus avoir envie de faire la fête, j'allais plus être aussi intense, ça allait me calmer. Et je m'imaginais vraiment, genre, mon petit foyer avec, je fais à manger parce que j'adore faire la cuisine, et je m'imaginais vivre de ça, tu vois. Je m'imaginais, ménagère en fait. Et je pensais trouver le bonheur là-dedans. Et je m'imaginais. Que j'allais savoir tout faire et qu'il n'y aurait pas de difficultés. Parce que je pensais très fortement que j'allais tellement aimer cet enfant que rien n'allait être une difficulté, en fait. Parce que l'amour allait compenser. Donc c'est faux. Voilà, je le dis. C'est totalement faux. Et surtout, je m'imaginais avec un enfant de l'âge de Ferdinand aujourd'hui. Donc 2 ans et demi, 3 ans. Je concevais pas un nourrisson, voilà. Et j'imaginais aussi que ça allait solidifier mon couple, un truc de ouf. Vraiment, que ça allait nous rendre invincibles. Et que ça allait mettre un roc, et je m'imaginais famille, nombreuse, même presque, tu vois. Et je m'imaginais vraiment mère intègre, épanouie. J'imaginais que j'allais plus être moi, en fait, tu vois.
Et du coup, il s'est passé quoi?
Bah, il s'est passé que ça m'a transformée complètement, ça c'est sûr, mais pas du tout comme je l'aurais imaginé. Dans l'inverse, en fait, total. Ça m'a transformée dans ma libération, dans mon émancipation, dans des engagements super forts que j'ai pris et que je prends. Ça, j'ai pris le chemin inverse, en fait. Et ça... Je veux pas dire que c'est l'enfant qui a cassé notre couple, parce que ça, c'est pas vrai. Je pense que l'enfant a juste fait qu'accélérer le processus. Parce que c'est un catalyseur, l'enfant, en fait. C'est pas l'enfant, c'est pour ça le baby clash, j'aime pas, c'est un terme voilà, qui évoque les difficultés après l'arrivée d'un enfant dans un couple. J'aime pas ce terme, parce que c'est pas le baby clash. C'est l'enfant catalyseur et qui fait ressortir tout, en fait. Donc très vite, t'as une lecture de qui est vraiment la personne, tu vois. Et de son éducation, et de plein de choses et tout. Et en tout cas... moi, je considère que Constantin, c'est vraiment une belle personne, une bonne personne. Mais juste, c'était pas compatible avec moi, la personne que je suis devenue.
Comment on le sait, moi qui n'ai pas d'enfant, comment on le sait en amont, en fait, ça? On peut pas le savoir en amont ou il y a quand même des indices? Comment...
Il y a quand même des indices. Je pense qu'il y a quand même des indices. Mais moi, pour le coup, le souci que j'ai eu, entre guillemets, c'est que j'ai fait un enfant super vite avec Constantin. On s'est rencontrés en juillet, on s'est mis ensemble en octobre. 3 mois après, j'étais enceinte. Donc, t'avais pas le passif. Tu vois, je pense que quand tu peux voir la personne dans certaines situations, dans des situations de difficulté notamment, avant, ça te donne quelque chose. Enfin, et après, en même temps, je vais te dire, moi, je suis vraiment, et ça, Constantin, il me le dit tout le temps, il me dit, c'est simple, il y a plus rien à voir entre la femme que j'ai rencontrée et celle que je suis aujourd'hui. Et il a tellement raison, et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça. À un moment, tu peux pas non plus savoir ce que ça va faire sur toi. Tu peux pas. Donc non, tu peux pas, c'est un peu la loterie, mais après tu sais aussi pourquoi tu fais un enfant avec cette personne. Et moi, franchement, aujourd'hui, bah je suis quand même très contente d'avoir fait un enfant avec Constantin, tu vois. Enfin, typiquement, heureusement par exemple que je l'ai pas fait avec le mec dans ma relation d'avant. Enfin, ça aurait été une infamie, quoi, vraiment, tu vois. Aujourd'hui avec Constantin, on a nos désaccords sur plein de choses qui sont majeures, hein, souvent, mais on arrive à communiquer, on arrive à parler. On arrive à passer du temps ensemble avec Ferdinand. Tu vois, là, demain, il m'a proposé d'aller au bateau mouche. Donc, et ça, c'est quand même précieux, en fait, tu vois. Et donc, je suis quand même contente de savoir bah, que j'ai choisi la bonne personne. Parce que c'est quand même le bon père pour Ferdinand. Il y a énormément d'axes d'amélioration et voilà. Mais en tout cas, c'est notre famille, elle est comme ça. Juste, ce qui est fou pour Ferdinand, je pense, c'est qu'il a deux parents tellement opposés, en fait, tu vois. Et en même temps, je me dis, ça va le nourrir, quelque part.
C'est un peu Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la hantise, c'est justement de se séparer après avoir fait un enfant. Toi qui es de l'autre côté, d'une certaine manière, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Est-ce que c'est si terrible? Enfin, évidemment que j'imagine que c'est très triste, mais comment tu le vis, en fait? Entre, tu vois, ce qu'on peut se figurer de ce serait le drame de ma vie et la réalité, quelle est la...
Ah bah ça, c'est une vraie question. Et franchement, moi, ça a été un putain de chemin de croix, quoi. Vraiment super difficile. Parce que quand j'ai pensé pour la première fois à la séparation, Ferdi, il était petit quand même. Parce que je suis quelqu'un qui part vite, tu vois. Parce que je suis pas quelqu'un qui va rester 10 ans dans une relation, ou même 3, 4 ans, 5 ans dans une relation, où moi, je sais qu'il n'y a pas de futur, tu vois. Et ça a été horrible d'envisager la chose. Ça a été horrible de l'envisager, et ça a été horrible de voir que ça allait se produire. Parce qu'en vrai, tu le sais, tu vois. Ça a mis des mois à se faire, mais tu le sais. Et moi, ça m'a mis dans une insécurité émotionnelle. De l'espace. Et c'est quand même un endroit super désagréable, tu vois. C'est quand même super désagréable d'être dans cet espace-là quand t'es en postpartum. Et c'est pas... C'est vraiment un chemin qui est difficile, mais en fait, je me rends compte que c'est parce que j'avais cette image fausse et idéalisée de c'est quoi une famille, en fait. Et que pour moi, une famille, c'était forcément un papa, une maman et un enfant. Ou deux papas, enfin, mais en tout cas, un couple, tu vois. Et que, en fait, c'est quand j'ai commencé à m'autoriser à remettre ce modèle en question que j'ai pu l'envisager comme une éventualité. Donc ça, c'est le premier pas. C'est déjà déconstruire tout ça, en fait. De te dire, mon gosse, il n'a pas besoin d'avoir ses deux parents, surtout s'ils ne s'entendent pas, sous le même toit, en fait. Et vraiment, moi, ce qui m'a guidée toujours et qui me guide aujourd'hui, c'est toujours de me dire, et c'est un peu comme le truc de ma mère dont je parlais tout à l'heure, de me dire, en fait, si moi, je ne vais pas bien, lui, il ne va pas bien. Et c'est toujours la même chose, c'est de se guérir soi en premier. Donc, la question qu'après qui est venue, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi ? Plus qu'est-ce qui est bon pour Ferdinand. Et du coup, là, tu déplaces le problème, entre guillemets. Et ce qui est bon pour moi, bah, c'est la séparation. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour lui. Et je pense qu'une fois que tu as dit la chose à l'autre, déjà, ça, c'est horrible. Parce qu'il y a de la résistance, parce que même toi, hein, c'est super difficile. Et que généralement, quand on arrive là, c'est que tu es passé par des phases avant pas sympa. Donc déjà, tu es fatigué émotionnellement et tout. Et surtout, dans mon cas, j'étais quand même... Bah, Ferdi, il avait 18 mois, avec un bébé qui ne dormait pas, qui avait beaucoup de problèmes de santé. Donc, plus le documentaire que j'ai sorti, enfin, si tu veux, niveau énergie, j'étais très très basse, quoi. Et juste, en fait, de se dire, putain, il faut que je trouve un appart. J'ai pas de dossier parce que je suis au chômage, parce que j'ai fait un documentaire. Avant, j'étais à l'étranger, donc j'ai pas de fiche, enfin, j'ai pas d'impôt. Il faut que j'ai deux chambres, parce que j'ai un enfant. Il faut que je gagne suffisamment d'argent pour élever cet enfant à Paris. Donc c'est énorme. Et en plus, moi, je suis entrepreneur. Je lance mon activité et j'ai 3 semaines de visibilité sur ma trésor. Et donc, en fait, c'est un mur. Mais, encore une fois, franchement, j'aurais, ça, c'est ce que je fais toujours. Hein. J'ai juste sauté dedans. Je me suis... C'est toujours... C'est plus fort que moi de m'écouter. Tu vois. Et du coup, bah écoute, la vie fait que... Là, on enregistre dans mon appart que j'ai trouvé en 48 heures, d'une propriétaire qui m'a quasiment pas demandé de dossier, parce que je lui ai expliqué la situation, qu'on est passé par PAP, que je lui ai dit voilà, je suis en train de me séparer, j'ai fait ça, tel documentaire, que par la force des choses, elle connaissait, et qu'elle m'a donné l'appartement sur un plateau d'argent, tu vois. Et après, ce qui est toujours très difficile, c'est que c'est, faut quand même payer un loyer qui est super cher, et toujours tout ce truc de taf et tout. Mais en fait, à un moment... tu vois aussi les bénéfices, quoi. En fait, c'est toujours comme ça. Dans la vie, t'en chies un moment. Mais si tu travailles sur toi et que tu sais que tu vas dans le sens du bien pour toi, il y a une rétribution. Tu vois, je crois vraiment dans l'équilibre de la vie et la justice de la vie, tu vois. Et là, c'est plutôt bah, maintenant, en fait, où je l'ai. Ça va faire un an presque qu'on est séparés. Et où je kiffe, en fait. Tu vois, c'est genre... je peux même pas décrire, tu vois. J'essaie de vivre toute seule comme ça. Déjà, moi, ça m'était jamais arrivé parce que j'ai fait qu'enchaîner les relations. Et donc là, c'est aussi la première fois où je m'assume. Enfin, financièrement, ça a jamais été un sujet. Je me suis toujours assumée, mais où je m'assume moi toute seule. Je suis toute seule et je suis face à ma solitude. Je suis face à mes responsabilités. Je suis face à tout ça. Et ça te fait grandir à fond. Et d'élever mon fils comme ça, tu vois. Sans relation dysfonctionnelle. Et encore une fois, pour moi, c'est vrai, je jette pas du tout la pierre sur Constantin, parce que pour moi, c'est vraiment un assemblage qui était défaillant. Hein. C'est pas lui du tout, ni que moi. C'est nous deux ensemble, tu vois. Et c'est le méga kiff sur Terre, quoi. Donc, moi, j'encourage hein, toutes les personnes vraiment qui le sentent et qui le sentent dans leurs tripes, parce que tu le sens dans tes tripes, à s'autoriser, en fait, à rêver mieux pour eux.
Et du coup, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait, je crois que je sais plus si on enregistrait déjà, je suis pas sûre, qu'un enfant, c'est plein de contraintes. C'est presque un enfermement d'une certaine manière parce qu'au sens propre, tu peux plus partir quand tu veux pour n'importe quelle raison, que ce soit sortir comme tu l'entends ou n'importe quoi. Mais d'une certaine manière, il y a une autre forme de liberté de ce que j'entends qui est, comme tu disais, l'émancipation. Est-ce que toi qui as l'air d'être en quête de liberté de ouf depuis toujours, est-ce que ça te nourrit ? Est-ce que c'est pas une... J'ai l'impression que tu goûtes à une autre forme de liberté, peut-être même plus réelle, en fait, que la liberté juste de voyager d'endroit en endroit.
Bah, exactement, vraiment exactement ça. Mais alors, ça a pris du temps. Et tu vois, dans le doc, j'écris une voix off. Et à un moment, je dis, ma maternité, elle m'a révoltée. Et en fait, elle m'a donné liberté qui vaille aujourd'hui à mes yeux, celle de penser. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça a été un tel bouleversement identitaire. Et en fait aussi, maintenant, avec du recul, hein, vraiment, parce que ça, j'aurais été incapable de l'analyser avant, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai accouché, c'était le Covid. Donc j'ai été dans une situation, pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas fuir. Et ça a été d'une violence pour moi, genre, parce que mon quotidien était infernal, tu vois. Vraiment, enfin, il n'y a pas à dire... Ferdinand, il dormait pas.
Quand il venait de naître, du coup.
Quand il venait de naître, ouais. Il faisait... Moi, j'étais dans un état physique, je ne t'en parle même pas. Problèmes de santé à répétition, hypervigilance. Il y a eu des gros trucs. Il a fait un malaise du nourrisson. Pendant 20 minutes, il a perdu connaissance. Moi, j'ai cru qu'il avait fait une mort subite. Enfin, des trucs assez high level, tu vois. Et donc, ça a été... Le moment présent était un enfer. Chaque minute, et j'avais même pas la nuit pour récupérer. Donc, c'était deux fois plus long. Plus la crise sanitaire, plus je voyais bien qu'avec Constantin, on n'était pas alignés et tout. Enfin, donc, ça a été... Chaque minute était un enfer. Sauf que maintenant, je me rends compte... Et avant, j'aurais tout donné hein, pour partir, vraiment. Sauf que je me rends compte que pour la première fois de ma vie, d'avoir dû me battre dans l'adversité sans avoir ce choix de fuite, ça m'a ouvert les synapses, quoi. Tu vois ? Genre, super pouvoir, quoi. Ça m'a... Et tu le vois pas hein, dans la vie de tous les jours. Tu le vois pas. C'est pour ça que c'est dur. C'est juste dur, en fait. Mais après, quand t'en sors, genre, tu te rends compte, en fait, mais que ça te donne... Ça t'a... Ouais, ça... J'ai vraiment l'impression d'être une V2 de moi, quoi. Tu vois. Parce que t'as été tellement loin. Dans tout, dans la douleur, dans l'adversité, dans même juste la force physique, tu vois, de te dire, en fait, tu te rends compte de quoi t'es capable aussi. Et je pense que mon accouchement aussi a beaucoup joué là-dessus, parce que j'ai accouché à domicile, et donc sans péridurale et tout, et que déjà là, j'ai vu la puissance de ce que mon corps savait faire. Et c'est un truc de dingue, enfin, c'est indescriptible avec des mots, vraiment. Et donc ce truc de puissance, je l'ai eu grâce à la maternité. Avant, je me sentais pas puissante. Et je pense que c'est là où il y a eu la bascule de auto-dénigrement à création, tu vois, puissance. Et ça a été mon point de bascule, ça a été ça. Et ensuite, ça a été d'être la mère de cet enfant, tu vois, et de te dire, pour la première fois, en fait, t'agis plus juste en toi, t'agis pour lui, c'est sûr, mais t'agis aussi, ok, quel est le modèle que je vais donner ? Et pour moi, c'est super important. En fait, et je, tu vois, c'est ce que je dis souvent, moi j'ai aucun principe d'éducation, enfin, à part oui, je frappe pas mon enfant évidemment et tout, mais ce qui pour moi tient le truc, c'est le modèle. Et du coup, ça me permet aussi de quand même réussir à trouver ma place là-dedans. Parce que je trouve que c'est quelque chose du coup qui inclut à la fois l'enfant et à la fois toi. C'est pas juste je vais tout donner pour lui être la meilleure mère du monde, c'est comment je suis le meilleur modèle pour cet enfant. Et ça te laisse de la place d'exister en fait, toi en tant que personne. Et, pour ça, je pense que je travaille beaucoup quand même et que je sacrifie pas du tout mon travail pour Ferdinand, même si franchement, je suis quand même un peu dans ce truc, parce qu'on l'est toutes, hein, plus ou moins, de vouloir être la meilleure mère pour ses enfants, parce qu'aussi, on est un peu les seules figures. Donc s'il n'y a pas nous, on est le dernier maillon, donc on est obligé d'être un peu au top quand même. Mais quand même, de faire mes propres choix et de les assumer. Mais pour montrer aussi à Ferdinand, ok, en fait, dans la vie, tu fais quoi ? Tu penses à toi, tu te construis toi, et tu t'oublies pas dans l'autre, quoi. Et pour moi, le modèle, c'est le plus important, en fait.
Et donc, c'est après ton accouchement que tu as créé Anne-Suzanne ?
Ouais, alors non, Anne-Suzanne, c'est plutôt plus récent, parce que c'est le fruit de toute cette réflexion.
Ok.
Mais c'est là où j'ai décidé de faire le documentaire postpartum.
Alors, raconte... Comment t'es venue l'idée, à quel moment et qu'est-ce qui t'a suffisamment révoltée pour te dire je vais y dédier toute mon énergie, mon temps, tout.
C'était c'est simple en fait, c'est en fait déjà il y a eu un premier renversement de situation psychiquement pour moi au moment du choix de l'accouchement déjà, parce que donc je suis quand même arrivée dans cette expérience de la maternité en n'y connaissant rien. Pour moi l'accouchement c'était les scènes de films à la télé, enfin tu vois, j'en étais là. Et en fait comme j'ai eu la chance quand même d'avoir le Covid avec moi, entre guillemets, et que tout était à l'arrêt, j'ai eu beaucoup de temps pour lire et me renseigner et réfléchir à cet accouchement. Et en fait, je me suis assez vite dirigée vers, ok, donc sans péridurale, et du coup, le chemin se faisant, à accoucher à la maison, qui est quand même franchement un énorme pas, quoi, tu vois, enfin, pour en arriver là, déjà dans ma tête, j'avais fait un énorme chemin de déconstruction. Et pour moi, c'est la première petite pierre à cet outil formidable que maintenant j'adore et que je vis, tu vois, genre, qui est la déconstruction. Et ça, c'est vraiment un truc que je pense que j'ai initié avant quand même, mais où pareil, bah, ça manquait de concepts là-dedans, tu vois. Et c'est quand même, t'es quand même beaucoup plus forte quand t'as les concepts, tu vois. Et donc déjà de passer de cet accouchement médicalisé où tout le monde me disait si c'est comme ça qu'on fait un accouchement, à accoucher chez moi toute seule dans mon salon et aller tous cassez-vous, moi je fais ce que je veux aussi, tu vois. Ça a été un premier truc.
Pourquoi t'as eu envie d'accoucher chez toi?
Pour l'expérience. Pour l'expérience, et parce que je pense que quand même, j'aime bien aller à contre-courant. Et que si tu veux, en fait, juste je me voyais pas accoucher à l'hôpital. Parce que je me suis beaucoup renseignée. Et que parce que du coup, j'avais connaissance de aussi comment l'hôpital peut gâcher un peu un accouchement. Et les violences gynécologiques, plein de choses. Je pense que malgré tout, avec les violences sexuelles que j'ai subies, je fais quand même bien attention à mon corps, à qui regarde mon corps, comment, qu'est-ce qu'on fait avec mon corps, quoi. Et qu'en fait, quand j'ai eu conscience de ce que c'était un accouchement à domicile ou ce que c'était un accouchement à l'hôpital, enfin, le choix, il était vite fait. Hein. Il n'y avait pas à dire, quoi. Et surtout, je pense que je voulais vivre cette expérience d'accoucher sans péridurale et de vraiment sentir et être actrice. Est-ce que ça, c'est ça, en fait, dans tout mon parcours, tu vois, c'est que j'ai toujours voulu moi être actrice et que je me suis dit à l'hôpital, c'est pas moi qui va accoucher, tu vois, ils vont me faire accoucher, je vais rien sentir, ils vont me dire de pousser, alors que là, quand tu accouches naturellement, y a personne qui te dit qu'on pousser, c'est toi solo, pas ça, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup plu de faire ça et je me suis dit, ça c'est pour moi, c'est ça.
Et t'as pas regretté?
Non, pas du tout.
Ok, ça c'est ouf.
Non. Pas du tout.
Il y a un niveau de douleur qui reste...
C'est toujours compliqué de parler d'un accouchement comme ça parce que c'est une douleur qui est comparable à aucune autre. Donc du coup, les autres, ils n'ont pas de point de référence. Et c'est un peu, du coup, un peu abstrait. Mais en fait, déjà, il faut savoir que quand tu accouches à la maison et que ton corps, il est bien fait. Et l'avantage d'accoucher chez soi, parce que tu peux accoucher aussi sans péridurale à l'hôpital, hein, c'est que tu vas produire les hormones nécessaires à ce que ça aille, en fait. Et en fait, tu produis énormément de dopamine et énormément de... le dérivé de la... Ouais, c'est ça, c'est la... l'endorphine. Énormément d'endorphine, donc qui est le dérivé de la morphine qui te donne aussi à l'hôpital. Sauf que là, c'est naturel. Et quand t'es dans des bonnes circonstances, t'es en sécurité et que tu te sens bien et que t'es bien, et bah, tu vas produire beaucoup d'endorphine et du coup, ça va, en fait. Et moi, j'étais vraiment, vraiment surprise. Parce que mes contractions, elles ont commencé genre à 20h et jusqu'à 1h du mat, j'étais là en mode, c'est ça l'accouchement, mais facile quoi, genre vraiment quoi, tu vois. Et c'était une douleur qui était plaisante, dans le sens où c'était pas trop fort. Et c'était surtout très gérable, et surtout c'est par vague, hein. C'est des contractions. Donc après, t'as une contraction et t'as 3 minutes, où t'as zéro douleur. Si tu reviens à l'état normal quoi. Et surtout, j'avais fait un gros travail, je pense aussi, d'accompagnement, et j'avais bien visualisé ce que c'était... ses contractions et tout. Et du coup, ça a été complètement OK la première partie. Après, à partir de 2h du mat, je suis rentrée dans un peu un monde parallèle quand même. Une transe, ouais. Où là, je pouvais même pas parler, j'étais juste comme ça. Et il y avait ma cousine à mon accouchement avec Constantin. Et ma cousine me dit souvent, mais meuf, on t'a pas entendu respirer, quoi. Et j'étais là, mais parce que je pouvais... Enfin, limite chaque... centimètre carré d'air que tu prends, tu le millimètres pour... parce que ton corps, il est tellement en train de faire un effort surintense que genre tout est canalisé là-dedans et tu vas dans des endroits de fou, quoi, tu vois. Et vraiment. Et surtout, j'ai eu 2h de poussée à la fin, ce qui est très très long, ce qui était horrible, hein, franchement. Là, je vais pas faire la meuf, c'était super difficile, j'ai cru que j'allais crever, vraiment. Mais encore une fois, j'ai pas peur de la mort, tu vois, donc c'est pas un truc qui m'inquiétait, ça. Mais c'était super intense. Mais je suis aussi contente d'avoir pu accoucher à la maison parce que tu vois, typiquement, 2h de poussée à l'hôpital, ça part en césarienne d'urgence. Donc, alors que tout allait bien. Mais ça a été un truc de ouf. Et tu vois, quand Ferdinand il est sorti, Genre, c'était, j'étais pas du tout à cap. Enfin, j'étais pas du tout genre en mode waouh, la découverte de mon bébé, tu vois. J'étais en mode what the fuck, ce que je viens de faire. What? C'est pas possible, tu vois. Et vraiment, et c'est ce sentiment-là qui m'a habité pendant, franchement, vraiment des jours et des jours de. Beaucoup plus même que genre, ah ça y est, le bébé, il est là, tu vois. Genre, c'était cosmique, en fait. Et point de bascule dans la puissance, là, tout de suite, tu vois. Et donc, ça a été le premier pas, si tu veux, à cette, ok, je peux faire différemment. Parce que cet accouchement à domicile, j'ai dû le revendiquer hein, auprès de la terre entière, parce que tout le monde me disait que j'étais une malade, que je mettais mon enfant en danger. Et en fait, j'ai vu là que les gens, ils portaient des jugements sans rien savoir en fait. Parce que moi j'étais super informée sur l'accouchement à domicile. Et qu'il y avait des gens qui me disaient que j'étais une psychopathe, même des médecins. Hein. Alors, et j'ai vu dans leurs yeux que même s'ils avaient une blouse blanche, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Tu vois. Et du coup, c'est parti de là aussi de dire, mais les gars quoi, en fait, tu vois.
Et du coup, de peut-être voir la supercherie du monde, des gens qui émettent des jugements, croient savoir, ouais. S'auto-prennent pour des oufs.
S'auto-prennent pour des oufs, exactement. Bah, exactement. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, tu vois, quand tout à l'heure on parlait du fait, tu vois, que j'ai pas fait d'études pendant longtemps, j'ai cru que c'était un frein. Et en fait, je me rends compte de la chance que ça a été pour moi de sortir du système, en fait, totalement, et de me construire moi avec ce que je voulais, et moi, ce que je me suis construite avec les voyages et les livres. Et je me suis fait ma culture, en fait. Et j'ai vu aussi, tu vois, même en étant plus vieille, dans des tafs et tout, à quel point les gens, en mode, je disais, ah bah j'ai le bac, ils me prenaient pour une bolosse, tu vois. Il y a vraiment ce truc en France, quand même, d'études et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais s'ils savaient, tu vois. Et du coup, je pense que ça m'a fait tomber beaucoup de barrières, tu vois. Ça de dire, en fait, genre, c'est pas parce que tu dis que tu sais, que t'es sachant, que t'as des diplômes, machin truc, qu'en fait, ma voix, elle compte pas. Tu vois, même si je suis personne, même si ceci, cela. Et ça, j'ai vraiment pris position là-dessus à partir de cet accouchement à domicile. Et du coup, le documentaire, pour en arriver au documentaire, c'est que donc, ultra préparée pour mon accouchement. Et je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la recherche d'informations. Et donc, je me souviens juste qu'enceinte comme ça, de 9 mois, limite, je dis à ma sage-femme, ça y est, là, c'est bon, je suis prête pour l'accouchement, mais sur quoi d'autre je peux me renseigner. Et elle m'a dit, renseigne-toi sur le postpartum. Et donc, je vais à la FNAC, j'achète deux livres, les deux seuls livres qui existent sur le sujet. Et là, je me rends compte que bah, c'est un vrai sujet, le postpartum, en fait. C'est un vrai gros truc, le postpartum. Et là, je commence à regarder sur les réseaux, machin truc. Et bah, ça, si, parce qu'il venait d'avoir le hashtag mon postpartum de Ilana. Et du coup, je me rends encore plus compte que c'est un vrai truc. Et je me dis, putain, les mecs, je suis enceinte de 9 mois, j'entends ça pour la première fois. Je me dis, c'est quoi ce délire, en fait? Je me dis, comment c'est possible? Franchement, et même encore aujourd'hui, je me sens très, très bien juste de cet état de sidération. De dire, waouh! Et donc, je cherche un documentaire, je cherche des trucs, il n'y a rien. Et là, je me dis, d'accord. Donc, en fait, un sujet que je maîtrisais très mal, hein, déjà, mais juste, j'avais conscience de la portée du truc, tu vois. Assez quand même universel depuis la nuit des temps, enfin, gros sujet quand même. Personne ne le traite, tout va bien, tu vois. Et c'est comme ça que c'est venu de me dire, ok, bah moi je vais le faire. Et parce que ça aussi, grâce au fait que j'ai pas fait d'études, bah ça m'a jamais empêché de me dire, moi quand j'ai pris la décision de faire le doc, 2 mois après, je disais à toute la terre que j'étais réalisatrice, tu vois. C'est comme quand j'ai commencé à coder. 2 minutes après, je disais, moi je suis développeuse. Mais et après je le concrétise, tu vois. Donc c'est légitime, je trouve. Mais je me légitimise très vite sur un truc, tu vois. Quand j'ai pas trop ce truc de syndrome de l'imposteur ou ce genre de truc, parce que en fait pour moi il y a pas de case, en fait, tu vois, il y a pas de truc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un documentaire. Comment on fait un documentaire? Je me renseigne quand même. Le papa de Ferdi, lui, il était dans le ciné, donc du coup facile de trouver des contacts, d'en parler avec lui, machin. J'ai trouvé une équipe de cadreuses, j'ai écrit mes questions, je suis allée voir des mamans et c'était fini, quoi. Tu vois, donc facile. Ouais, mais c'est venu comme ça. Ouais. Et Anne-Suzanne, c'est un peu la concrétisation de cette année de recherche et d'engagement aussi de ma part, parce que moi, je suis vraiment partie de cette maternité, de cette révolution intérieure au féminisme. Parce que pour moi, même quand j'ai accouché, hein, le féminisme, c'était les femmes. Le féminisme, c'était pas bien du tout. tu vois. J'étais vraiment conditionnée là-dedans. Et il fallait surtout pas être féministe. Enfin, tu vois, c'était mal. Et j'ai quand même cette tendance à vouloir être la première de la classe, tout le temps. Donc du coup, même si je suis un peu outsider et tout, j'allais quand même là-dedans. Et en fait, je me souviendrai toujours, Ferdi devait avoir ouais, un an, un truc comme ça. Et j'ai acheté Sorcière de Mona Chollet. Et là, donc mon engagement quand même auprès des femmes, il avait pris de l'ampleur. Hein, tu vois. Et surtout, j'avais un an de postpartum dans la gueule. J'avais 40 mamans que j'avais rencontrées pour le doc, des centaines avec qui je parlais sur la page Insta que j'avais déjà commencé. Donc si tu veux, il n'y avait plus rien à prouver de mon côté pour voir qu'on était opprimés dans la maternité déjà. Et là, j'ai lu ça et je me suis dit « Ah, putain !» Ah, mais donc, il y a d'autres sujets, en fait. Tu vois, la maternité, c'est pas le truc. Ah, le féminisme, en fait, c'est ça. C'est ça. Et là, révélation. Et là, c'était parti la ligne droite, quoi. Tu vois. Et en fait, grâce à ça, genre, mon cœur, il s'est ouvert à tous les opprimés. Tu vois. À toutes les femmes, à toutes les personnes, toutes les minorités. Et vraiment, c'est limite, je peux le sentir, tu vois, que mon cœur, il s'est agrandi, quoi. Parce qu'avant, il était fermé. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de bienveillante. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, c'était... Je ressens, genre, la Delphité, un très, très haut niveau de vibration. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui, tu vois.
T'as conscientisé, en gros, tout un tas de choses en très, très peu de temps.
Ouais. Ouais, ouais. Parce que les prémices, ils étaient déjà posés, en fait. Donc, ça a été facile de prendre cette voie. Et surtout, bah, là, j'ai lu, je pense... une grosse partie de la littérature féministe française, du moins. J'ai dû lire, je sais pas, 40 livres, 50 livres sur le féminisme. Et du coup...
c'est dans la matrice, ça y est.
La matrice.
C'est fini, tu peux plus fermer les yeux.
On peut plus fermer les yeux. Et d'où après, bah, séparation, machin, Anne-Suzanne. Tout ça a découlé de ça. Et Anne-Suzanne, c'est... Le but, c'est de pouvoir, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et j'en suis super fière, de donner, de produire en fait d'autres réalisatrices qui sont d'ailleurs pas forcément réalisatrices. On prend aussi des meufs un peu comme moi qui n'y connaissent rien mais qui portent un sujet, et de leur dire venez, en fait, on va faire du bruit sur nos sujets, quoi. On va faire du bruit et on va traiter tous les sujets dont tout le monde s'en bat les couilles là, ils s'en foutent, les chaînes de télé et tout, mais faisons-le en fait. Faisons-le, diffusons-le, changeons complètement notre manière d'être documentariste, d'être journaliste, parce que chez Anne-Suzanne, on a une charte assez précise, par exemple, d'anti-neutralité, tu vois. Nous, dans les documentaires, on prend position, mais pas seulement en prenant position, comme au final, d'autres personnes le font aujourd'hui, mais on se raconte dans tous nos documentaires, tu vois. Ça part forcément d'une personne qui a vécu l'expérience et qui elle, en fait, construit ce projet documentaire. Donc, c'est des films qui ressemblent à aucun autre, en fait. Et c'est pour ça que ça plaît aussi, je pense.
Donc, vous produisez déjà d'autres films ?
Ouais.
Ok. C'est déjà en cours, il y en a déjà qui sont sortis ?
Bah, là, il y a Big Bang Baby qui sort donc, à la fin du mois. On a La Révolution menstruelle qui sort en mai.
Donc, que t'as pas fait, toi ?
Que j'ai co-réalisé. Bah, je suis un peu sur tous les docs, du coup, parce que on les écrit ensemble, en fait. Et c'est pareil, ça en fonctionne très différemment. C'est que quand on prend un projet, tout le monde se met sur l'écriture. T'as la réalisatrice, nous, on va agir un peu comme un incubateur. Donc, t'as Judy, qui est directrice projet, qui va faire l'écriture aussi. T'as Lola, même, qui est à la prod, mais qui a une vision hyper perspicace sur tous les sujets. Et on est tout ensemble, et tout le monde relie, et tout le monde met son grain de sel dedans. Et donc, c'est un travail d'équipe, tu vois. On n'est plus sur « c'est une réalisatrice », c'est un travail d'équipe. Et donc, La Révolution menstruelle qui sort, qui est finie, qui est un doc d'une meuf que j'ai rencontrée dans l'avion, tu vois, pour te dire à quel point, qui n'est pas du tout réalisatrice, du coup, qui est kiné. Et en fait, je m'assois dans l'avion et j'allais à une projection de postpartum à Monaco. Et on s'assoit et on se retrouve à côté avec nos deux gosses du même âge. Et genre, on parle. Et la meuf me dit « Ah bah moi, je vais faire la promo de mon livre sur le flux libre instinctif à Nice. » Et moi, je lui dis « Ah bah moi, je vais faire la promo de mon film sur le postpartum à Monaco, tu vois. » Et donc, on commence à parler. Je lui dis « Mais c'est quoi le flux libre instinctif ?» Et elle me dit « Bah, c'est la continence menstruelle. » C'est en fait le fait de... c'est à la fois une méthode et à la fois une connaissance précise de ton corps et plein de choses qui te permet de te passer de protection hygiénique. Et la meuf, elle, ça fait 10 piges qu'elle n'a pas mis un tampon, qu'elle n'a pas mis une serviette. En fait, elle va fluer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va déposer son sang aux toilettes comme si tu allais pisser. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça, elle a formé 800 femmes. Et en fait, c'est un vrai sujet, le flux libre instinctif, c'est mondial. Mais genre, personne ne le sait. Et en fait, elle m'a parlé de ce sujet avec le même feu que moi, je parle du postpartum. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, bah viens, on fait un documentaire ensemble. Tu vois, il faut en parler, en fait, de ça.
J'adore la vie de ouf.
Ouais. Et du coup, ça sort. Donc, c'est à la fois un documentaire sur les menstruations en tant que telles et sur le tabou des menstruations et sur le conditionnement. Parce que c'est ça que j'aime beaucoup chez Mélissa, c'est qu'elle ne porte pas juste son sujet du fluide libre instinctif. Elle a une vision sociétale des menstruations et elle a tellement réfléchi au sujet que, enfin, elle te fait voir tellement loin. Enfin, moi, elle m'a changé ma vision de comment je vois mes règles. Hein. Enfin, clairement, tu vois. À la fois par une approche médicale qu'elle a, mais à la fois par une approche sociétale, même vibratoire, tu vois, à la limite, comment elle t'en parle et comment, encore une fois, elle te montre qu'une autre voie est possible. Et donc, c'est à la fois sur les menstruations et sur le flux libre instinctif. Donc, c'est un doc en deux parties. Donc, ça sort en mai. Là, en ce moment, on est en tournage d'un documentaire sur l'accouchement à domicile. Forcément. On est en tournage aussi d'un documentaire qui s'appelle... Enfin, on a fait la pré-prod et on commence en avril. Il s'appelle « Bénissez nos seins », qui est sur pourquoi on déteste nos poitrines et comment... Et comment la société traite les poitrines des femmes, de Angèle Marais. Et c'est un doc qui va tourner à Paris et on va au Cameroun aussi pour voir une pratique de mutilation qui s'appelle le repassage des seins, donc truc assez voilà. Et on en a sur cette année, on va en sortir 6. L'année prochaine, on en sort 9. L'année après, on en sort 12. Et après, on reste.
Ils sont déjà prévus.
Ouais.
Waouh.
Ouais.
Ça y est, c'est parti.
Ouais, c'est parti. Nos 6 de cette année, ils sont tous soit en écriture, soit finalisés. Et donc après, c'est juste les plannings de production, quoi. Et ceux de l'année prochaine, on n'a pas encore casté, mais c'est simple. Moi, je reçois 3 propositions par semaine de documentaires, alors que je fais même pas d'appel à projet. Parce que, en fait, il y a personne qui produit ce genre de documentaire. Et t'es là, mais sorry, quoi. Excusez-moi, quand même. Enfin, ça concerne juste la moitié de la planète, enfin, tu vois. Et donc, c'est passionnant.
Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton... Ça sonne toujours très grandiloquent dit comme ça, mais est-ce que tu as déjà réfléchi à ta mission de vie ou en tout cas à ton purpose, ton why, quel que soit le mot, mais c'est quoi le why, le purpose, la mission de Anne-Suzanne ou la tienne?
Ah bah, les missions d'Anne-Suzanne, elles sont claires, elles sont écrites d'ailleurs. C'est éveiller les consciences, bouleverser l'ordre établi, encourager la puissance, la sororité, et encourager, promouvoir le potentiel des femmes. Et pour moi, il y a tout là-dedans, tu vois. C'est vraiment... Anne-Suzanne, c'est moi, quelque part, tu vois. Et c'est vraiment ça, ma mission de vie. Il y en a plusieurs, tu vois. Mais je pense que la finalité, c'est vraiment ça. C'est bouleverser l'ordre établi, en fait. Et c'est se rendre compte du potentiel inexploité des femmes. Et se rendre compte du potentiel infini de la vie et de comment on peut vivre sa vie. Tu vois, et c'est ça ma mission de vie, moi.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Demain, il y a peu importe qui, une boîte, un média qui t'appelle et qui veut le racheter, qui veut racheter Anne-Suzanne, t'es d'accord ou jamais de la vie?
Non, pas du tout.
Toi qui tiens la liberté.
Mais par contre, là, tu touches à un sujet qui est très intéressant quand même, c'est l'argent. Comment on fait pour produire tous ces documentaires? Comment on fait pour payer les équipes qui vont produire tous ces documentaires? Comment tu fais pour rémunérer justement les réalisatrices, parce que le cinéma, c'est comment dire, gentiment. ils maltraitent clairement les réalisateurs et réalisatrices de documentaires, on va dire, parce que normalement, c'est à peine si t'es payé sur un projet, c'est Inch'Allah, si on le vend à une chaîne, et tu peux pas mettre vraiment ton contenu, puisque c'est des commandes, enfin, il y a un potentiel là-dedans qui est complètement verrouillé. Il n'y a pas eu la révolution encore du cinéma, enfin, en tout cas, j'espère, avec Anne-Suzanne, du moins des documentaires. Mais c'est... Et nous, on a une politique très forte de rémunération des réalisatrices. Enfin, on les paye super bien, on paye de l'écriture à la fin. Enfin, tu vois, pour moi, c'est hyper important. Mais c'est comment tu finances tout ça, quoi. Parce qu'on parle de millions d'euros. Et donc, bah, je suis en levée de fonds. Donc ça, c'est un délire aussi dans le genre, hein, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est super lourd à porter tout seul, d'entamer une levée de fonds comme ça, et de lever beaucoup, quoi. Et c'est surtout, c'est capitaliser aussi sur un modèle qui est payant en Suzanne aujourd'hui et qui, moi, me fait bien chier. Parce que t'imagines bien que moi, j'aimerais bien qu'il soit gratuit, mais qu'aujourd'hui, je peux pas. C'est impossible, tu vois. C'est impossible parce que sinon, si je mets quelqu'un au-dessus de moi avec, par exemple, un média ou quoi que ce soit qui pourrait, genre, produire et du coup, rendre la plateforme gratuite, on perd tout. On perd toute la nature du truc, puisqu'on perd toute notre liberté éditoriale.
en fait.
Bah, c'est sûr que pour avoir bossé dans un média indépendant payant, enfin une plateforme payante, en fait, c'est extrêmement compliqué et il faut avoir une audience suffisante pour arriver à l'équilibre à minima, voire à faire des profits, quoi. Et bah, les gens se rendent pas toujours compte, en fait, de la précarité de ce que c'est que de produire du contenu, quel qu'il soit.
Ah non, mais c'est clair, vraiment c'est clair. Et surtout, tu vois, on est quand même dans un. C'est que ça s'inscrit quand même dans. C'est une boîte féministe et je le revendique. Et derrière, parfois, on me dit ouais, mais t'es féministe et ton abonnement, ça va être 15 balles par mois. Tu t'adresses à qui, tu vois? Et je suis d'accord. Bah, c'est la vérité, c'est que là, je m'adresse aux gens qui ont assez d'argent pour payer ça et ça me rend ouf. Mais à côté, par contre, du coup, j'essaye de faire des choses. Par exemple, Postpartum, les deux premiers épisodes, je les mets à disposition gratuitement pour que les gens puissent faire des projections. Et aujourd'hui, des projections de Postpartum, t'en as tous les deux jours, en fait. Et donc, c'est mon moyen à moi. Tu vois, de dire oui, ce que je fais, c'est payant, mais par contre, je le donne à des associations pour qu'elles puissent faire des projections, je le donne à des PMI, et comme ça crée de l'échange, ça crée plein de trucs. Mais à un moment, il faut bien que je me rémunère, et c'est pour ça aussi que je compte sur les gens qui peuvent payer pour payer, parce que là, c'est pas compliqué. Tout l'argent qu'on récolte, il va dans la production, tu vois, y a rien, enfin, y a nous, en fait, enfin, donc. C'est vraiment ça, tu vois. Mais j'espère que le message, j'arriverai à le rendre audible. Parce que c'est vrai qu'au début, tu te dis, ouais, bah, c'est bien beau le féminisme pour les riches, quoi. Tu vois. Mmh. Et c'est encore éduquer les riches. Et ça me rend dingue, hein, vraiment. Mais juste aujourd'hui, j'ai pas trouvé comment faire différemment.
Et tu crois pas qu'il y a potentiellement de temporalité? C'est-à-dire déjà, tu vois, faire monter ta boîte, ouais, et que ce soit rentable. Et ensuite, en tout cas, moi, j'observe ça dans pas mal de projets. C'est faut déjà sécuriser l'argent pour ensuite pouvoir aller vers le versant plus social et plus accessible.
Exactement. Bah, c'est vraiment ce que je compte faire dans tous les cas. Tu vois, c'est vraiment de me dire, OK, là, j'ai besoin de me structurer. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour lancer le truc. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit sur don libre en Tucsane et que les gens soient suffisamment au clair avec notre démarche, pour quand tu peux mettre tes 15 balles par mois, tu les mets même plus. Et quand tu peux mettre pas 2 euros par mois ou 1 euro, et bah, tu le fais, tu vois. Et on va fonctionner aussi avec beaucoup de codes promo. Tu vois, moi, Postpartum, pareil, Postpartum, il est cher. Hein. Postpartum, il coûte 25 euros et 4 épisodes, donc c'est très cher. Mais derrière, pour toutes les personnes en situation de précarité, et j'inclus très très large, tu vois, même, tu vois, les mamans en congé parental auxquelles on pense jamais et tout, et ben, je leur donne des accès à moins 50%, parfois à moins 70%, parfois de la gratuité. Donc j'essaye de faire comme ça, quoi. Mais c'est toujours quelque chose de difficile parce que on vit dans ce putain de monde capitaliste, en fait, et ça me saoule, hein. Enfin, j'aimerais bien que ce soit pas le cas, sauf que il y a aussi quelque chose que moi je suis assez persuadée, c'est que pour porter, parce que moi, j'ai envie de faire ces docs, mais j'ai envie de les porter super haut, tu vois, et qu'ils soient, et super forts aussi, tu vois. J'ai envie de donner des moyens, en fait, à cette cause. Et pour moi, il faut aussi se battre avec les armes du patriarcat. Et l'arme du patriarcat, c'est l'argent. Et moi, en fait, genre, j'ai aucun problème à dire que je veux de l'argent, en fait. Mais pour le mettre à profit pour notre cause aussi, en fait. Parce que tant qu'on restera à dire non, machin, c'est payant, ceci, cela, et bah, ou qu'on se dira pas, ok, je suis assez au clair avec moi-même pour revendiquer le droit que j'ai à gagner de l'argent et à promouvoir, à mettre beaucoup, beaucoup de budget, et ça reste quand même des contenus super quali, super, tu vois, genre orientés, quoi. Mais ça, c'est un truc assez nouveau, je trouve, dans le féminisme, tu vois, et je pense qu'on en a besoin, en fait, de porter fort ces sujets, enfin, tu vois, et de leur donner du budget. Enfin, moi, les docs qu'on fait, c'est des docs qui coûtent cher, et je loue des lieux, et tu l'as vu, t'es venu, hein. Tu vois, et il y a des moyens, quoi, tu vois. Il y a des moyens, parce que c'est aussi comme ça que tu fais passer ton message à une plus grande échelle. C'est en ayant un contenu quali, c'est en ayant des beaux endroits. Enfin, et dans beaux endroits, c'est pas forcément... pour moi, c'est pas juste montrer une catégorie sociale, tu vois. C'est pas ça, parce que ça, on me l'a aussi... on me l'a dit. C'est pas ça, c'est plus, en fait, d'avoir un cadre qui est suffisamment aussi, tu vois, doux et beau, en fait, pour que ça soit pas juste les meufs ultra féministes comme nous qui allons regarder ça, et que la réelle, elle parle au plus grand nombre. Et bah, ça se fait avec des moyens, donc voilà.
Je suis complètement d'accord que l'argent, c'est un sacré moyen d'émancipation, même si je fais exactement le même constat que toi, que bon, bah, fuck le capitalisme. Ouais. Mais malgré tout, on est dedans, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, à force de s'écraser et de ne pas vouloir demander d'argent parce qu'on est des femmes et qu'on nous a appris à surtout pas parler d'argent, à pas en demander, à pas machin, bah, en fait, on se fait avoir. Quoi.
Et surtout, il y a quelque chose aussi, peut-être que les gens ne voient pas, tu vois, mais dans les contenus aussi gratuits qui existent aujourd'hui, enfin, le gratuit n'existe pas. En fait. Et ça, on a tendance à l'oublier. À vouloir tout gratuit, mais à quel prix ? Au prix de tes données, au prix de tes photos, au prix de... Tu vas te recevoir 3000 spams dans ta boîte mail, tu vois, genre, à quel prix ? Le gratuit n'existe pas. Pour faire tourner un média comme Insta, il faut des milliards d'euros. Les milliards d'euros, ils viennent pas de nous, ils viennent autre part. Tu vois ? Et je trouve aussi que c'est aussi mettre dans la main des gens, finalement, de dire, bah voilà, c'est, tu payes pour ça, mais par contre, moi, derrière, à côté, enfin, tu vois, genre, tu sais aussi pourquoi tu payes. Moi, je revends pas tes données, enfin, tu vois, et je vais pas aller essayer de me tordre la tête à, ok, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire qui va être suffisamment super mainstream pour avoir le plus de monde ? Non, tu vois, je reste sur mes sujets de niche, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, plutôt. Mais voilà. Mais sur le business model de Antuzanne, on s'appuie aussi sur des marques partenaires. Et ça, c'est aussi une grande partie de notre business model, parce que on en a besoin aujourd'hui, tu vois. Mais pareil, ça, ce modèle-là, je l'ai un peu twisté parce que d'habitude, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup des trucs d'influence ou pareil, ça va être un peu caché, ça va être un peu machine qui nous monte ses 10 000 produits. Et moi, je travaille là-dedans, je le vois, c'est marqué gros comme un... C'est marqué Auchan, quoi, tu vois. Mais pour plein de gens qui sont dans la vie de tous les jours, tu le vois pas. Et en fait, c'est malgré toi, en fait, tu vas acheter des trucs dont t'as pas besoin du tout. Et en fait, c'est juste une putain de pub, tu vois. Et les marques, elles font cette influence-là. Et moi, je trouve pas ça bien. Ou même aussi, par exemple, t'as le modèle de Brut qui va aller produire en marque blanche et qui vont mettre leur truc. Et en fait, moi, je voulais pas être là-dedans. Donc moi, déjà, genre les marques avec qui on travaille, il y en a 3, tu vois. Et elles sont bicorp, elles sont nickel, voilà, toutes. Et surtout, je demande un prix de partenariat qui est démentiel, en fait, pour dire, parce que vous allez pas... Enfin, en fait, pour dire, c'est votre moyen aussi de montrer que vous voulez collaborer avec nous, donnez-nous beaucoup, tu vois. Et nous, on vous donne finalement très peu. Parce que ce qu'on leur donne aujourd'hui, par exemple Mustela, avec qui on bosse, qui est une boîte que j'aime vraiment, j'adore cette... j'adore même juste les meufs, tu vois, elles sont extraordinaires. Et ben, ce que je propose aux marques dans ces cas-là, c'est, ok, nous, on a des heures et des heures de contenu. Et ben, au lieu de faire des trucs d'influence chelou, d'aller tourner pour vous des trucs, ce qui va nous prendre 10 ans et c'est pas notre taf, enfin si, mais voilà, et ben, moi, je vous propose d'utiliser notre contenu qu'on vous met en extrait. C'est nous qui choisissons les extraits et tout. Et vous pouvez les utiliser pour communiquer autour de nos sujets. Tu vois, on inverse le truc. C'est plus vous qui nous utilisez, mais c'est moi qui dis, moi, j'ai ça à disposition. Ça, c'est mes sujets. Ça, c'est les sujets sur lesquels je veux que tu communiques. Et donc, si tu as envie de t'engager avec moi, eh ben, tu vas là-dedans, tu vois. Et franchement, c'est un modèle. En tout cas, tu vois, les meufs de Mustela, elles l'ont accueilli genre à bras ouverts. Et elles ont compris, tu vois, l'intérêt, en fait, du truc et de pourquoi c'est cool. Et de aussi donner, en fait, de financer les leaders d'opinion pour qu'ils puissent porter leur voix. Enfin, tu vois, jamais ils auront un droit de regard sur les docs. Et c'est même pas, ils m'ont demandé, tu vois. Genre, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Parce que c'est vraiment une autre forme de collaboration qui est très saine, je trouve. Qui est vraiment saine. Et du coup, je suis assez contente de ça, tu vois. Ça parle pas à tout le monde, c'est sûr. En même temps, j'ai pas envie de parler à tout le monde, tu vois, parce que moi, je m'en fous de faire 15 partenariats. J'en veux très peu, mais je veux des vraies marques qui adhèrent, en fait, au truc et qui parlent de mes sujets et qu'ensemble, tu vois, on collabore.
J'ai un dernier sujet qui n'a rien à voir. Du coup, je change complètement, mais je vais absolument te poser cette question avant qu'on se quitte. On parlait avant enregistrement, pour le coup, des hommes. Et les hommes là-dedans, et notamment les hommes qui prennent ou pas leur place de père. Tu disais que tu as lu beaucoup, beaucoup de livres féministes, notamment français. Moi aussi. Et en fait, plus tu en lis et plus tu observes le monde et plus tu vois la matrice et plus tu t'aperçois des inégalités et plus ça devient compliqué de croire... je vais être un peu déprimante, c'est pas grave. Enfin, plus je vois des femmes partir vers carrément l'homosexualité, qui quittent l'hétérosexualité, et plus je vois. Enfin, est-ce qu'en gros tu crois encore en les hommes qui sont en capacité de vraiment bouger et prendre leur place, et ouvrir les yeux accessoirement sur toute cette matrice, et est-ce que tu comprends ces femmes qui vont vers... est-ce que tu as encore foi en l'hétérosexualité aussi, d'une certaine manière ?
Ah bah, je les comprends parce que c'est mon cas. C'est-à-dire que moi, coming out là, première fois, dans un micro du moins, que moi, ça fait plusieurs mois quand même, que pour moi, l'hétérosexualité, c'est plus une option, tu vois. Et que... et du coup, bah... Ça, c'est un sujet aussi qui est super large, tu vois, et ça donnerait peut-être l'occasion d'un autre podcast, tellement c'est vaste, tu vois, de me rendre compte, en fait, de « Ok, j'ai de l'attirance sexuelle pour les femmes. » Et ça, c'est un truc que j'avais pas capté, tu vois. Enfin, en fait, quand je relis mon histoire maintenant avec ces yeux-là, je vois qu'il y avait des prémices, mais que je m'étais jamais autorisée, que ça avait jamais été une option. Jamais. Et pourtant, je me souviens dire avec mes copines, ouais, si, mais moi, oui, non, moi, je jamais été attirée par des meufs et tout. Mais parce qu'en fait, c'était pas une vraie option dans ma tête. Et quand ça a été une vraie option, et bah, c'est plutôt là où je m'oriente, en fait. Tu vois. Et donc, pareil, bah, gros, énorme chamboulement pour moi. Et donc, si la question est sur... En tout cas, moi, l'hétérosexualité, pour moi, aujourd'hui, c'est pas trop une option. Je me vois pas aller là-dedans. Enfin, tu vois, non. Je pense que je suis pas lesbienne, je pense plus que c'est de la bisexualité, tu vois, parce que j'ai quand même, je peux ressentir de l'attirance vers les hommes, mais pour moi aujourd'hui, c'est simple, hein. Allez, ça fait quoi, ça fait deux ans que je travaille sur ces sujets, deux ans que je fais aussi attention, que je rencontre beaucoup de gens, tu vois, j'ai fait plein de tournées, je suis tout le temps en vadrouille, des gens j'en rencontre, hein. Des hommes, plein de trucs, même je sors, je suis une meuf qui sort, donc tu vois, où je suis aussi pas forcément confrontée tout le temps à des parents, mais aussi juste des autres personnes. Hein. Et ben, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui ça pourrait... Ils sont trop loin, il y a trop de retard, vraiment. Et moi je le vois dans tout, hein, même pas que dans le féminisme, je le vois dans le sport, dans le yoga, dans le rapport au corps, dans les lectures, dans l'évolution en fait de... pour moi, hein, enfin, et c'est pas très sympa de dire ça, mais en fait, c'est pas une critique. Pour moi, j'ai de la peine. Hein. C'est ça, hein, vraiment, enfin, de revoir ça, parce que c'est chaud et c'est beaucoup une question d'éducation aussi. Et ça prend des lustres à changer tout ça, en fait.
Comment. Bon, alors là, je suis d'accord, on refera un podcast parce que.
Grave.
Mais juste, comment ça se fait qu'ils soient aussi loin, quoi ?
Ils sont loin parce que c'est une question d'éducation. Parce qu'on les a coupés de leurs émotions petits, tu vois. Il y a un super documentaire sur Netflix d'ailleurs qui en parle de ça, qui s'appelle Beyond Masculinity, Men and Masculinity, et qui explique en fait que cette éducation qu'on a donnée à tous les petits-enfants de nos âges, et encore pire d'avant et tout, de les élever dans cette recherche de la performance, de la masculinité, les prémices de cette masculinité, tu vois. Et des trucs où on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas compte. Et on le fait, hein. Si tu fais pas cette déconstruction, tu le repelles, tu le répètes. Parce qu'en fait, ce qui est assez vicieux, et on en parle dans Big Bang Baby, c'est que face à la parentalité, tu vas aller beaucoup plus facilement vers la réplication de ton modèle parce que c'est ce qui te sécurise. Et que t'es dans une énorme période d'instabilité et que même si t'as pas envie, et que tout le monde, ado, on dit tous, fuck les parents, machin, en fait, quand t'es parent, toi, à ton tour, vraiment, et ben tu reproduis, en fait. Soit tu reproduis, soit t'es dans l'extrême opposition. Mais dans tous les cas, si t'as pas fait un travail de déconstruction et de « Ok, qu'est-ce que moi je vais faire ?» Enfin, quelle est ma vision de la parentalité ? Tu reproduis ton schéma. Et du coup, ça se perpétue, en fait, finalement. Et surtout, les petits garçons, on les a tellement coupés de leurs émotions et de qui ils sont. Ils ont tellement dû, déjà, rien qu'entre 4 et 6 ans, tu vois, à la période de l'école, ils ont tellement dû se créer un faux moi pour être accepté dans les bandes, pour faire les gros caïds, et juste pour évoluer socialement, hein, qui est, si tu veux, c'est pas... On parle de quelque chose qui est primitif et surtout qui est vital. C'est pas juste pour faire genre. C'est que la socialisation des êtres humains, c'est un gros truc, tu vois. Et donc, que ça se forge très fort, très très fort, et qu'avec l'adolescence, et même après, tu vois, bah, tout ça ne fait qu'amplifier. Et qu'en fait, on se retrouve face à des hommes qui n'habitent pas leur personne, qui ne sont pas connectés à leur moi, à leur émotion, et donc du coup, qui ne peuvent même pas se rendre compte de tout ça. C'est ça qui est vicieux, tu vois. C'est qu'ils ne voient pas le problème. Ils peuvent voir le malheur, ils peuvent le percevoir, parce que quand même. Mais,
ils vont pas faire ce travail de déconstruction. Et parce que personne ne les incite, et parce qu'ils sont même presque reniés de leur caste s'ils le font finalement. Et que c'est surtout faire ce travail de déconstruction pour les hommes ou pour les femmes, mais c'est couper avec tout ce que tu connais. Tu vois, donc c'est coupé avec tout ce qui t'a sécurisé. Et en fait, le problème, c'est que on est aussi une génération d'enfants violentés sexuellement, violentés émotionnellement, verbalement, de tout, à l'école, dans ta famille. Enfin, les violences éducatives ordinaires, on en a tous et toutes subies. Et du coup, on n'est pas des adultes sécures. On fait tous genre, on est hyper sécure, on a tous des tafs, tout va bien. En vrai, on est vraiment toutes et toutes de notre génération. Enfin, je généralise, hein, mais on comprend. On est des grands blessés, quoi. Tu vois. Et en fait, du coup, tu peux super difficile de s'épanouir et de faire cette quête de soi, cette quête de sens et cette quête de mieux quand t'es pas sécure. C'est impossible, en fait, presque. Et du coup, bah, tu passes une vie qui ne t'appartient pas, et une vie où tu vas faire des choix qui sont pas les tiens et où tu vas pas remettre le modèle en question. Et franchement, moi, je serais capable de pleurer là, tu vois, parce que c'est passer à côté de sa vie, en fait. Tout simplement, c'est ne pas vivre sa vie. Et c'est tellement triste. Et on a tellement d'évolutions à faire là-dessus. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, bah, tu vois, pour le coup, avec mon enfance et ma vie de jeune adulte, que tout à l'heure, on en parlait un peu de les gens qui sont enfermés là-dedans, tu vois. Je pense ça, que moi, je l'ai vu très vite, versus moi, la liberté que je pouvais avoir. Mais je voyais pas comment faire, tu vois. Je voyais pas de réponse à la question. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré le féminisme, ça a mis une énorme dose d'optimisme là-dedans pour moi. Parce qu'avant, pour moi, c'était, il y avait rien à faire, c'était juste l'enfer. Alors, et j'ai trouvé des vraies solutions là-dedans, dans le féminisme. Et je me suis dit, mais putain, cool, quoi. On n'est pas perdu, en fait. Genre, on peut le faire. Et le seul moyen, c'est ok, comment on le fait, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, en Suzanne, on s'adresse qu'aux femmes aujourd'hui. Et souvent, on me dit, pourquoi pas les hommes et tout, il y a tellement de travail à faire. Et je suis 100% d'accord. Parce que déjà, il faut que nous, on puisse se réparer. C'est toujours la même chose. Déjà, nous, et comprendre les choses, et plus accepter les agressions, et plus accepter plein de choses, pour ensuite aller vers les hommes, tu vois. Et ensuite, pouvoir eux aussi les aider, les éduquer. Et parfois, juste le poids de l'éducation et de ce que tu t'es construit comme fausse image de toi est trop fort. Hein. Et dans ce cas-là, c'est foutu. Mais j'ai quand même bon espoir.
Bah, il me reste plus qu'à te dire à très vite pour le deuxième épisode, du coup. Hein.
C'est ça. Trop.
Bah, merci beaucoup, c'était génial.
Avec plaisir,
merci. Et puis j'espère vraiment à très vite pour un deuxième épisode où on pourra développer, ouais, tout ça.
Carrément, avec plaisir quand tu veux.
Trop bien.